Europe Matin Weekend.
Bonjour à vous, allez-vous bien ? Vous vous réveillez tout doucement, on est là au complet, à vos côtés, pour vous informer, pour vous accompagner bien sûr. Ben ça y est, hein, c'est le grand jour, 70 000 bureaux de vote qui vont t'ouvrir dans 2 heures, 12 candidats et le grand défilé aux urnes.
Au suivant.
Enfin, on l'espère, hein. Brel, bien sûr, serons-nous nombreux à voter ? C'est la question du jour. Abstention record ou pas ? On en parlera à 8h moins le quart dans Ça vous concerne. D'ici là, tous vos rendez-vous du dimanche. 6h40, Philippe Legrand avec Richard Klederman. 6h50, la balade de Vanessa et Marion à 7, puis dans les Bouches-du-Rhône. 7h10, l'interview actu. Je recevrai l'avocate des familles des victimes de la maison de retraite Orpea, maître Sarah Saldman. Elle part en guerre contre ce gros groupe. Dossier pas facile, elle nous le dira. Nous sommes le dimanche 10 avril. Soyez les bienvenus dans votre matinale week-end. C'est parti. Il est 6h. Bon réveil à tous.
Europe Matin Week-end. Thierry Dagiral.
Et c'est Lénaïque Monnier qui vous informe. Première édition, bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Avez-vous choisi votre poulain ? Vous avez jusqu'à 20h pour désigner les deux finalistes de la présidentielle. Mais la crainte d'une forte abstention plane sur cette élection.
Je vous le disais, les bureaux de vote ouvrent dans 2 heures avec des règles sanitaires, mais pas de masque obligatoire. Ce qui effraie certains électeurs fragiles, nous les entendrons.
Dans ce journal également, le tracas des agriculteurs après la chute brutale des températures. Nous irons dans le nord pour voir comment ils s'en sortent. Et puis du foot et le carton du PSG hier soir à Clermont.
Dans la prochaine demi-heure, le pronostic de Thierry Léger pour le quintet à Longchamp. Mélanie Gomez et Julia Vignali nous diront que c'est le moment pour le nettoyage de printemps. Et puis à 6h23, Mathieu Noël plaidera pour les patrons d'Orpea. Mais d'abord, la tendance météo avec vous. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien, c'est une très belle journée qui s'annonce sur l'ensemble du pays. Le ciel est juste voilé en Bretagne, en Basse-Normandie ainsi que le long de la frontière belge où ce matin, il faut faire très attention au verglas.
Le détail météo dans 7 minutes. À tout à l'heure. Nous y sommes, c'est le premier tour de l'élection présidentielle, donc protocole sanitaire, indécision, abstention, on vous dit tout ce matin bien sûr sur Europe 1.
Qui seront les deux finalistes désignés ce soir à 20h ? Vous avez toute la journée pour vous décider. Les bureaux de vote ouvrent à 8h, ils ferment à 19h, 20h hein, même dans les grandes villes. Alors à l'heure du choix, avez-vous fait le vôtre ?
Vraiment, je me sens à côté de cette campagne parce que c'est très sur la sécurité, sur ce genre de choses et je me sens vraiment pas du tout concerné. C'est très difficile de se positionner du coup. 12 candidats, mais aucun point de vue qui me tient à cœur en fait.
J'ai pas prévu de voter parce que j'ai pas changé ma caisse électorale. J'ai d'autres priorités à gérer en ce moment. Ça reste flou et c'est surtout beaucoup de mise en scène et de théâtre et du coup, je me sens assez éloignée de tout ça.
Non, je voterai jamais. Pour moi, ça a toujours servi à rien et même si je voterais, ça changerait rien. Le système, il serait toujours pareil. J'ai rien à voir avec tout ça. J'ai rien à voir avec cette mascarade.
J'irai sûrement pas voter. Si j'ai pas le candidat qu'il me faut, mais c'est un peu vague pour le moment. J'ai l'impression d'être un peu mis de côté, et puis voilà.
Et à l'écoute de ces témoignages recueillis par Thibaut Hu, on prend la mesure du peu d'emballement pour la campagne et de cette abstention qui pourrait être très haute, entre 26 et 30% peut-être.
Abstention traditionnellement très forte aussi aux Antilles. Hein.
Plus de 60% lors de la dernière présidentielle. D'ailleurs, c'est pour cette raison que depuis 2007, la Martinique, par exemple, vote 24 heures avant à la métropole pour inciter les citoyens à aller aux urnes. Florin Aussu, notre correspondant, est allé voir justement s'il y avait du monde dans les bureaux de Fort-de-France hier.
Avoir le droit de voter, déjà, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas, donc on a cette chance, donc j'en profite pour le faire.
Joseph a été le premier votant du bureau 9 de la commune de Ducosse, dans le centre de l'île. Comme une vingtaine d'autres électeurs, il a choisi de venir avant même l'heure d'ouverture officielle. Un acte citoyen indispensable aussi pour Christiane, même si cette campagne 2022 aura été un peu plus compliquée que d'habitude.
Pratiquement absente, parce qu'effectivement ça a commencé très tard, et on n'a pas eu grand-chose. Au niveau de ma boîte aux lettres, sous les papiers il y a 3 jours.
À la sortie de l'isoloir, un autre Joseph tenait à adresser un message clair aux candidats.
Faire aussi savoir aux politiques qu'il y a toute une population qui attend certaines choses d'eux. Certes, ils sont dans une place décisionnelle, mais il n'empêche que c'est quand même la population qui leur demande de les représenter.
Les électeurs martiniquais devront attendre jusqu'à 14h cet après-midi, heure locale. Il sera 20h à Paris pour connaître les résultats de ce premier tour.
Et à 17h, heure locale, au premier tour, le taux de participation justement en Martinique, il était estimé à 35,10% contre 34-82, à la même heure, il y a 5 ans.
Alors, autre question que l'on soulève ce matin, masque ou pas masque pour aller voter?
Alors, il n'est pas obligatoire, mais il est conseillé aux assesseurs notamment, ou aux plus fragiles. En tout cas, c'est une vraie crainte pour certains électeurs. Face à la peur d'attraper le Covid, certains n'iront tout simplement pas voter. Reportage Solène Leroux.
Raymonde est atteinte d'un cancer du sein. Cette femme de 66 ans a toujours voté. Et pourtant, cette fois, elle restera à la maison, tout comme son compagnon, pour ne pas ramener le Covid.
Par peur de l'attraper. J'habite dans un tout petit village. Je pense qu'ils ne vont pas nettoyer après chacun l'isoloir. Ils ne vont pas forcément dire qu'ils ont le Covid. On va être côte à côte. On va passer après eux dans l'isoloir. Je n'irai pas.
De son côté, Jessica, sous dialyse depuis 32 ans, coupe la poire en deux. Ce sera une procuration.
Savoir que des gens peuvent aller aux urnes complètement positif, alors que même les assesseurs et dans les mairies, le masque ne sera pas obligatoire pour les week-ends d'élection. Je trouve ça complètement honteux.
Au contraire, pour Karim, sous immunosuppresseur depuis une greffe de rein, l'enjeu est trop important, dit-il.
Avec tous ceux qui se présentent, il y en a certains parmi eux, ils font peur quand même. Je ne verrais pas pourquoi je vais rester chez moi et me dire je suis immunodéprimé, je ne vais pas y aller voter, je mettrai le masque, je prendrai du gel et puis voilà.
De nombreuses précautions, à défaut de pouvoir faire une procuration, le Mosellan de 36 ans se rendra tôt au bureau de vote pour éviter de croiser du monde.
Les précisions de Solène Leroux pour Europe 1.
Et voilà ce que l'on pouvait dire de ce premier tour de l'élection présidentielle. Pour le moment, soirée spéciale sur Europe 1 et CNews dès 18h avec Pierre de Villeneuve, avec Laurence Ferrari. Puis Sonia Mabrouk, on en vient à présent à la guerre en Ukraine. Boris Johnson a effectué une visite surprise hier à Kiev.
Oui, on l'a vu déambuler dans les rues de la capitale ukrainienne aux côtés de Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre britannique a promis des véhicules blindés, des missiles anti-navires, ce qui a fait dire au président ukrainien que les autres pays européens devaient lui emboîter le pas.
Les autres États démocratiques occidentaux doivent suivre l'exemple du Royaume-Uni. Aujourd'hui, vous voyez de vos propres yeux à quoi ressemble notre État et vous savez parfaitement à quoi ressemblent nos villes et nos villages à cause de l'invasion russe. Il est temps d'imposer un embargo total sur la croissance de l'énergie, d'augmenter l'approvisionnement de toutes les armes à l'Ukraine. Le peuple ukrainien apprécie le soutien du Royaume-Uni pour notre chemin vers la paix.
Volodymyr Zelensky qui a par ailleurs affirmé que l'Ukraine était toujours prête à des pourparlers avec Moscou. Kiev a d'ailleurs annoncé avoir libéré 12 soldats et 14 civils dans un nouvel échange de prisonniers avec la Russie.
Les Nike retour en France. À présent, 6000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin.
Conséquence du passage de la tempête Diego, ce sont les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes qui sont concernées. Le retour à la normale est prévu dans la journée. Une tempête qui a succédé à une grosse vague de froid à laquelle les producteurs de fruits ont dû s'adapter. Reportage dans le nord de Lionel Gougelot pour Europe 1.
Xavier Collette parcourt avec soulagement les allées de son verger de la ferme du Paradis à Seclin. Malgré des nuits à moins 4 degrés, il a évité ici la catastrophe.
On a limité la casse, ouais. Ouais. Donc on s'est levé, on a mis nos alarmes pour se lever à la bonne heure. On a mis les bougies, on a mis l'aspersion.
L'aspersion, un arrosage préventif des fleurs de pommier qui protège du gel.
On arrose le verger quand on est encore en température positive. L'eau gèle sur la fleur et du coup, les calories dégagées par la glace vont protéger la fleur du gel extérieur. Et sur le verger qui a été en aspersion, on a zéro perte.
Plus au sud, dans l'Avesnois, les 30 hectares de verger de Christophe Tellier ont subi des températures de moins 6 à moins 7 degrés et faute de matériel chauffant, tout n'a pas pu être protégé.
En pommes, suivant les variétés, on est entre 50-70% de dégâts et en poire, c'est quasiment 100%. Il n'y a rien qui a été sauvé, malheureusement, en poire.
Constat d'autant plus rageant que les dégâts se répètent d'année en année.
On a connu 2017 avec 100% de dégâts, 2019 entre 60-70%, 2021 entre 60-70% suivant les variétés. Et cette année, ça recommence sur une nuit à moins 6 degrés. Ben heureusement qu'on a chauffé avec les 4 machines pour sauver une partie de la récolte. Mais il nous reste encore 10 hectares de ratatinés.
Des producteurs qui croisent les doigts pour que les saines glaces du mois de mai ne viennent pas aggraver la situation.
Les questions de météo, les questions de climat aussi. Hier, entre 5600 et 35000 personnes ont défilé à l'initiative de mouvements citoyens pour la défense du climat dans plusieurs grandes villes.
Allez, il nous reste à voir les sports et il y a des buts en ce moment en Ligue 1.
Après le 6-2 entre Lorient et Saint-Etienne, voilà le 6-1 du Paris Saint-Germain à Clermont hier. Triplé de Neymar, triplé d'Mbappé qu'on écoute.
Non, on est content. On a pris beaucoup de plaisir. Je pense qu'on en a donné aussi. Voilà, on continue notre route vers ce 10e titre. Voilà, je pense qu'il est, il est plus très loin et on est très satisfait. Ouais, c'est dommage que ça arrive que maintenant. Après, il y a eu pas mal de circonstances, il y a eu pas mal d'événements qui ont fait qu'on a été un peu retardé, mais Mais voilà, on sent que voilà, c'est trois joueurs de qualité et voilà, je pense que on essaie d'aider l'équipe un maximum et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
Et d'un mot, le golf, il n'y aura pas de veste verte au Master d'Augusta pour Tiger Woods. Il a trop de retard désormais sur le leader. Mais c'est quand même une très belle victoire pour le golfeur qui avait frôlé l'amputation après un grave accident de la route il y a un tout petit peu plus d'un an.
Merci Léna Hickmonnier, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Alors, le temps de votre dimanche, Valérie Darmon, du soleil pour aller voter. Hein.
Et oui, très belle victoire du soleil sur les nuages, enfin, enfin.
Grosse une participation fois, du soleil.
Voilà, grosse participation. Une fois dissipées tout de même les rares grisailles de ce matin dans les vallées de l'Est, le ciel qui est un petit peu voilé sur le nord-ouest, et puis sur tout le nord cet après-midi, sans altérer l'impression de beau temps. Ça glisse un petit peu sur la région Champagne-Ardenne ce matin, mais rien de très méchant.
Nos auditeurs nous donnent des températures 1 degré en Mayenne, c'est ce que nous dit Jean-Yves, 1 degré en Isère, nous dit Antoine. Il fait froid ce matin.
Hein. Oui, il fait froid avec des petites gelées matinales généralisées sur l'est et le nord de la France. Sur l'ouest et près de la Méditerranée, les minimales qui oscilleront entre 1 et 6 degrés en général. Actuellement, il fait moins 4 à Aurillac, moins 2 à Ambérieu, moins 1 à Nancy, à Caen et Clermont-Ferrand, 0 à Bourges et Lyon, 0 aussi à Paris, 1 à Lille, 4 à Bordeaux, 5 à Montélimar, 8 à Marignane et 10 à Nice. Mais le temps se radoucit nettement cet après-midi sous l'effet du soleil qu'on attendait tant, avec 11 à 16 degrés sur la moitié nord, 16 à 20 au sud et même jusqu'à 24, heureusement que vous êtes assis, dans les Landes et les Pyrénées Atlantiques. On avait oublié ces valeurs.
Le rêve, merci très chère Valérie, à tout à l'heure. Allez, dans un instant, bien fait pour vous, extrait. On va parler du ménage de printemps ce matin. Pourquoi a-t-on besoin de tout remettre au propre? Et puis bien sûr, Mathieu Noël, le dimanche, ce matin, en avocat de l'EHPAD Orpea. Mais avant ça, les pronostics pour le quintet du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Thierry, ce quintet va se courir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, dont ce sera d'ailleurs la réouverture. Et parmi les 16 chevaux âgés de 4 à 7 ans qui en découdront sur la distance de 1400 mètres, je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic le numéro 1 Trou Romance, qui possède des références solides sur le parcours qui nous intéresse et comme son aptitude au terrain très souple sur lequel il va évoluer cet après-midi ne fait aucun doute, il peut être considéré comme une certitude à l'arrivée. On lui opposera les numéros 6, Be My Day, déjà vainqueur lui aussi sur ce tracé et nanti d'une position idéale dans les stalles de départ. 13, King Rob, désormais idéalement placé sur l'échelle des poids de ce handicap. 2, Amédras, qui n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment. Et 9, Brouillard, dont la course de rentrée le 7 mars sur l'hippodrome de Marseille-Pont-de-Vivo laisse augurer dès cet après-midi une très grande performance. Enfin, les numéros 8, Stave, 3 Kit Count et 12 Essai Transformé peuvent, comme beaucoup d'autres, compléter la combinaison gagnante de ce quintet agrémenté d'une tirelire exceptionnelle d'1 million d'euros. Mon pronostic, As, 6, 13, 2, 9, 8, 3 et 12.
1 million d'euros, ça fait rêver. Merci beaucoup Thierry Léger.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
6h12, Europe 1 parle de vous, parle de nous, avec les meilleurs moments de l'émission Bien fait pour vous, tous les matins, du lundi au vendredi. Mélanie Gomez et Julia Vignali recevaient cette semaine Alexandre Crucio. Il est coach en bonne humeur domestique, et puis également le docteur Aurélia Schneider, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
Alors Alexandre, je me demande s'il y a une méthode parfaite, on va dire, pour faire ce ménage de printemps. Est-ce que vous conseillez de ranger, je ne sais pas, pièce par pièce, ou plutôt de procéder par tâche, par exemple l'aspirateur partout, les poussières partout, je tire tous les meubles partout. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une méthode meilleure qu'une autre?
Alors moi je vais donner ma méthode, comme ça,
voilà,
ça sera plus simple.
C'est la vôtre qu'on veut.
Alors moi en fait je procède pièce par pièce. Je veux pas me mettre de pression. À partir du moment où on va se dire je vais attaquer toute la maison ou tout l'appart d'un coup, c'est-à-dire si on habite dans un 150 mètres carrés, on a du taf. Donc pièce par pièce c'est bien. Peut toujours avoir un empêchement, un truc qui nous empêche de terminer. Donc
et au moins, la chambre sera faite.
Voilà,
ouais,
exactement, donc pièce par pièce. Et moi, je pars du haut et je finis en bas. Toujours.
D'accord. Expliquez-nous, pourquoi ?
Parce qu'en fait, toutes les poussières qui sont accumulées en haut, on va les faire tomber vers le bas.
J'ai pas de haut et de bas, moi c'est tout au même niveau.
Et on finit par passer l'aspirateur, tout simplement. Mais quand
ah, mais de haut, vous voulez dire les plafonds,
oui,
d'accord, je pensais de l'étage.
Les murs, parce que les murs aussi, de temps en temps, puis surtout l'occasion du ménage de printemps, c'est de passer un coup sur les murs, sur les cloisons et tout, et de faire tomber cette poussière qui s'accumule, ce gras, etc.
Donc l'aspirateur en dernier.
Vous avez déjà nettoyé votre plafond, Julien ?
Bien sûr, moi j'ai des éponges magiques et je nettoie les murs.
Génial, les éponges.
Dans les murs, oui, mais
j'ai une recette pour les fabriquer maison.
Merci, on en parlera tout à l'heure. Ah, le docteur Schneider a l'air complètement consterné par ce qui nous arrive. Alors justement, le fait de faire son ménage, qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Pourquoi Alexandre et moi-même, on est excités comme ça à se parler ménage ? Est-ce que ça procure, je ne sais pas moi, les mêmes bienfaits qu'une séance de sport ? Est-ce que c'est juste le fait de s'activer qui nous met de bonne humeur ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors déjà, je veux revenir sur ce que vient de dire Alexandre. Les petites tâches, les tâches fractionnées, c'est très très bien. Il ne faut surtout pas avoir l'idée de faire tout d'un coup. Il n'y a rien de plus culpabilisant et dévalorisant, parce qu'on ne va pas y arriver et on va se reprocher après de ne pas y travailler. Donc c'est vraiment un conseil permanent, à la fois de bonne humeur et à la fois psychologique, c'est-à-dire ne faites pas tout d'un coup, ne prévoyez pas de faire tout d'un coup, parce que ça va vous déprimer de ne pas y arriver. Et alors, compte tenu de cette bonne humeur quand même qui est générée par le fait de s'activer, oui, des études ont montré que quand on disait à des femmes de ménage, hommes de ménage, que le ménage qu'ils allaient faire ressemblait, ou en tout cas était l'équivalent d'une séance de sport, ça leur mettait beaucoup plus de cœur à l'ouvrage. Donc, il y a des sécrétions de molécules du bonheur quand on s'active sur le plan physique.
Docteur Schneider, trop souvent encore, les tâches ménagères sont pilotées par les femmes, ce qui augmente notamment leur charge mentale et ça a des répercussions sur leur santé mentale. Expliquez-nous.
Eh bien, si on est en charge de la totalité du travail domestique, ménage de la maison, y compris les courses pour acheter les produits ou même les fabriquer, si on n'est pas relayé, ça va faire énorme. Si on travaille, si on a des enfants, s'il faut faire la cuisine. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, la génération des vingtenaires, les jeunes femmes vingtenaires, sont en train vraiment, vraiment
d'évoluer. De faire changer les choses.
Elles ont été baignées depuis quelques années là, dans ces histoires de charge mentale, on recalcule un tout petit peu les histoires d'éducation genrée, un tout petit peu, mais c'est déjà ça. Et franchement, je vois des différences arriver. Le congé paternité est en train aussi de secouer les puces de tout le monde, parce que si les jeunes papas se mettent à être seuls avec leurs enfants, alors que les mamans sont retournées au travail, et ben comment créer un super lien avec son bébé et comment s'approprier l'environnement et comment nettoyer aussi.
Alexandre, ça lui met des étoiles dans les yeux, ce que vous êtes en train de raconter.
Non, mais c'est-à-dire que, en fait, c'est aussi. Ce sont des choses qui sont très naturelles quand on est seul. D'ailleurs, les papas qui sont en garde partagée le savent bien et arrivent très bien.
Ils se débrouillent merveilleusement.
Mais c'est bien pour ça qu'on parle de la charge mentale aussi des hommes, parce qu'ils se débrouillent très bien. Mais quand il y a effectivement une femme, elle doit faire attention à ne pas vouloir être trop perfectionniste et trop vouloir tout organiser très très bien dans sa maison.
Est-ce que vous avez un conseil pratique justement pour celles qui ne sont pas encore dans les nouvelles générations, mais qui subissent ça un petit peu au quotidien et qui voudraient faire changer les choses ? Parce qu'on peut évoluer, on peut changer. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas un petit mode d'emploi à leur donner à ces femmes qui sont submergées par les tâches domestiques ?
Demandez à l'autre
de
l'aide.
Parfois, on ne le dit même pas, en fait, c'est ça.
Mais oui, et surtout, moi, ce que je pense qu'il faut viser, c'est le partage. Le partage, peut-être même sur une seule tâche, mais une seule tâche menée par l'autre, de bout en bout.
Genre quoi, par exemple, les fenêtres. Oui. Dire à son homme, s'il te plaît, fais les fenêtres.
Tous les carreaux. Et à ce moment-là, comme m'a dit une patiente, je suis repassée derrière mon mari parce qu'il avait juste fait le centre du carreau. Il n'avait pas fait les coins.
On peut leur apprendre. Et
alors, mais ça s'apprend, ça s'apprend. Je veux dire, nous aussi, on a appris à faire une lessive. On a eu des lessives catastrophes. Hein. Moi, j'ai la première, une lessive rose intégrale, parce qu'une chaussette rouge était restée dans le tambour. Tout ça, ça s'apprend, ça se transmet. Et il faut demander. Et il faut demander du partage. Et le partage, c'est une tâche de A à Z effectuée par l'autre. Et quand je dis de A à Z, c'est de A à Z, on ne s'en occupe pas. Oui. On ne veut pas savoir comment l'autre a rempli le lave-vaisselle.
Bien sûr.
Du moment que les choses sont dans les placards à la sortie, c'est très bien.
Exactement. Allez-y, Alexandre.
Je suis à 10 000% d'accord avec vous. Mais
vos copains, ils en pensent quoi ? Par exemple, quand ils vous voient astiquer la maison.
J'ai des potes qui sont comme moi, j'en ai un, il est comme moi, mais il est célibataire, etc. Mais beaucoup ne comprennent pas.
Vous arrivez à en convertir, surtout des nouveaux ?
J'y arrive petit à petit, même des gens qui sont sont qui me suivent sur les réseaux. Mais j'ai encore beaucoup trop de retours.
Sur votre compte Instagram de mettre 0,5, là, ouais, voilà.
J'ai encore beaucoup trop de retours sur justement cette charge mentale. Il y a 8 femmes sur 10 aujourd'hui en France qui sont encore en charge des tâches domestiques.
Mmh. Tout seul.
En plus de leur charge mentale.
Ouais,
les hommes ne vont pas. Et j'hallucine des fois des témoignages que je peux avoir, quoi.
Voilà, bien fait pour vous. C'est du lundi au vendredi de 11h à midi.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'info express à 6h19, Lénaïque Monnier.
Premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Grande inconnue du scrutin, la participation. Certains experts craignent une abstention record entre 28 et 30%. Quoi qu'il en soit, les bureaux de vote ouvrent à 8h et vous avez jusqu'à 19h, voire 20h pour aller glisser votre bulletin dans l'urne 20h si vous êtes dans une grande ville comme Paris, Marseille, Lyon ou encore Strasbourg. 46e jour de guerre en Ukraine. Boris Johnson a effectué une visite surprise à Kiev hier. Il a déambulé dans les rues de la capitale aux côtés de Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre britannique a apporté une aide militaire. Il offre au pays des véhicules blindés et des missiles anti-navires. Le courant est progressivement rétabli après le passage de la tempête Diego et le retour à la normale est prévu dans la journée. Mais 6000 foyers sur les 70 000 impactés sont toujours privés d'électricité ce matin, principalement en Nouvelle-Aquitaine, autour de l'estuaire de la Gironde ainsi qu'en Auvergne. 31e journée de Ligue 1 et Paris qui a pulvérisé Clermont 6 buts à 1 avec deux triplés signés Neymar et Mbappé. Et puis de la Formule 1 ce matin, Charles Leclerc partira en pole position sur Ferrari du Grand Prix d'Australie devant le champion du monde en titre Max Verstappen. Départ du Grand Prix à 7h heure française.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Allez, dans un instant, Mathieu Noël, en avocat de la maison de retraite qui fait la une en ce moment, la une de l'actu. Orpea, merci d'être avec nous sur Europe 1, tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Non pas Mathieu Noël ce matin, mais cet être délicieux qui défend le groupe Orpea, qui en a bien besoin. Avec la publication cette semaine d'un rapport d'enquête de 500 pages accablant pour le numéro 1 des maisons de retraite. Bonjour Jean-Michel Escard.
Bonjour à tous. M'excusez, je fais mon petit mémo vocal pour mon fichier client. Avec moi en studio, Pavlenko Dimitri, 41 ans, alopécie prometteuse avec échec patent de tous les traitements anti-chute. Et vu la fréquence à laquelle sa collègue s'exclame
« Il est parti faire son petit pipi !»
Soit en moyenne 4 fois sur une matinale de 2h30, soupçon de prostate défaillante. À ses côtés, Madame Adadi, 39 ans, toujours enjouée malgré le spectre de la ménopause. Attention Anissa, vous savez, tout s'enchaîne très vite. Le périnée s'affaisse, entraînant dans sa chute tout le reste. Ne tardez pas, je vous laisse ma carte. Jean-Michel Escard, Orpea. On a des très belles promos en ce moment, notamment dans notre EHPAD de Courbevoie. Moins 30% sur les chambres avec vue sur le cimetière. C'est super, comme ça vous vous habituez progressivement. Et puis quand ça arrive, vous n'êtes pas surpris.
Je peux le frapper, tu vous croyez
ouais,
Anissa
allez-y.
Bon, maître, le rapport d'enquête qu'avait commandé le gouvernement sur les pratiques de votre client suite aux révélations choc du livre Les Fossoyeurs est désormais public. Bon, avouez qu'il est terrible pour Orpea.
Pas du tout, monsieur Pavlenko. Vous avez toujours une manière biaisée de présenter les faits. Comme quand je vous avais demandé hors antenne l'autre jour à quoi ressemblait physiquement Anissa et que vous m'aviez dit...
Elle est entre Hidalgo et Jean Lassalle.
Les auditeurs qui connaissent Madame Adadi constatent qu'ils ne peuvent pas vous faire confiance. Vous n'êtes pas objectif. Mon client, le groupe Orpea, est blanc comme neige. Et comme disait Mallarmé...
Le temps, c'est comme un flocon de neige. Ils font. Bon.
Oui, Dimitri Mallarmé, c'était son frère. Il est moins connu.
Bon, maître, puisque vous bottez en touche... Entrons dans les détails. Le rapport dénonce de nombreux dysfonctionnements, au premier rang desquels le rationnement imposé aux pensionnaires.
Et il y a là un quiproquo, monsieur Pavlenko. Oui, nous rationnons nos pensionnaires, mais c'est parce que chez Orpea, nous croyons qu'il n'y a pas d'âge pour séduire. Or, nous sommes déjà presque mi-avril, dans tous nos EHPAD, c'est objectif summer body. Si cet été, nos pensionnaires veulent pouvoir poster des selfies avantageux à la plage, il faut les aider à atteindre leur objectif calorique. C'est pour leur bien qu'on les limite à une tartine le matin. Et s'il y en a qui réclament du rab, nos aides-soignants savent toujours trouver les mots.
C'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, hein.
Voilà.
Oh, vous moquez du monde, maîtresse Car. Vraiment.
Non. Si. Soyez rassurés, mon client Orpea a pris toute la mesure du problème concernant le grammage des plateaux repas. Et je suis en mesure de vous annoncer au nom de mon client une formidable nouvelle pour tous les pensionnaires des établissements Orpea, enfin, tous ceux en tout cas qui auront encore un pouls à midi, un menu spécial pack. Car voyez Dimitri, chez Orpea, nous pensons que les vieux, les personnes du troisième âge, ont droit aussi de croquer à pleines dents, enfin, à pleines stéradents, dans la magie de Pâques. C'est pourquoi au dessert, à midi, et cependant toute la période pascale, nos pensionnaires pourront déguster des œufs surprises Kinder. On a touché une palette à très bon prix. Kinder Bueno, Chocobon, Miam Miam les papis. Et ce n'est pas fini, puisque conscient du choc provoqué par ce vilain rapport, Orpea a décidé également d'offrir ce soir à ses pensionnaires un dîner thématique Tiamo Italia, avec pizza buitoni pour tout le monde. Selon nos calculs, ces mesures devraient permettre de libérer sous 3 mois 25% des lits et de renouveler ainsi le cheptel, la patientèle.
C'est pas bon de s'en prendre à la clientèle. Le rapport parle aussi de documents financiers insincères, excédents budgétaires dégagés sur les dotations publiques.
Bon, oui, c'est un rapport très chiant, monsieur Pavlenko, avec des mots compliqués et plein de chiffres qui font mal à la tête. Ce qu'il faut retenir, c'est que jamais les dirigeants d'Orpea n'ont privilégié la rentabilité sur la qualité de vie des patients. Ah, attendez, pardonnez-moi, je l'arrête.
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est rien, c'est l'alarme de ma Maserati. Elle est très sensible, comme nous, chez Orpea. D'ailleurs, je vous invite d'ores et déjà à vous renseigner sur nos tarifs, monsieur Pavlenko. Aujourd'hui, vous pouvez encore travailler, mais demain, je vous écoute, vous savez, le matin.
Bonjour Charlotte Dornelas. Charlotte Dornelas, capable de détecter de l'industrie française aux décisions...
Cette pathologie, qu'on appelle Parkinson buccal, est hélas très évolutive.
Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur ?
Le monsieur vous dit que la maladie évolue très vite. Signé ici. Quant à vous, madame Haddadi, ne pensez pas que la vieillesse, ça n'arrive qu'aux autres. Vous savez, un jour, on se réveille, on va sur Facebook, ce qui déjà prouve qu'on est vieux, et puis on écrit un message comme...
J'ai deux places pour aller voir Genesis, ce soir, je peux pas y aller.
Ou bien, quand, lors d'un premier rendez-vous Tinder, la meuf vous demande quel est votre chanteur préféré et que vous répondez...
Putain, Daniel Guichard, quoi.
Et là, nous, les professionnels de la dépendance, on sait qu'on va pas tarder à avoir de nouveaux clients. Je vous laisse ma carte.
Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur ?
Je vous dis, je vous laisse ma carte ! Oh, je sens qu'on va se revoir plus tôt que prévu, nous deux.
C'est celui que je déteste le plus, je crois, de tous les avocats.
L'aimez bien ? Ah non, il est libidineux.
Je déteste
Esther. Il est abject. Ouais. Merci, maître.
Pourtant, c'est ce qui nous attend tous.
Ouais, mais calme-toi.
Les plaidoiries de Mathieu Noël du lundi au jeudi à 8h moins le quart sur Europe 1. Orpea, on va en reparler très sérieusement là à 7h10 avec mon invité maître Sarah Saldman. Elle est l'avocate des victimes d'Orpea. Dossier difficile.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et je vous rappelle notre page Facebook, hein, vous réagissez à l'actu, vous nous dites ce matin quel temps il fait chez vous. Si vous allez voter, rejoignez-nous Europe Matin Week-end, 6h30 sur Europe, à l'information de ce dimanche matin. Clément Gouise, bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les visites diplomatiques se multiplient à Kiev. Après la présidente de la Commission européenne, c'est Boris Johnson qui s'est rendu hier en Ukraine pour rencontrer Volodymyr Zelensky.
Le jour J pour les électeurs français, ils sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président de la République. Parmi 12 candidats sur la ligne de départ, un premier tour qui n'échappe pas à l'application d'un protocole sanitaire. On en parle dans ce journal avec Yasmina Katou.
Et puis on terminera ce journal au volant de la dernière Renault Mégane électrique. Aurélien Fleureau a eu la chance de l'essayer au Salon de l'Automobile à Lyon.
Au sommaire de la prochaine demi-heure, 6h40, une date, une histoire. Philippe Legrand reçoit le pianiste Richard Klederman à l'occasion de la sortie de son album Forever Love. Et puis à 7h10, la balade du dimanche avec Marion Sever et Vanessa Zah. Nous irons à 7 où débutent les escales, une fête des traditions maritimes. Et puis nous dégusterons des fraises dans les Bouches-du-Rhône. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
Un soleil généreux en dépit de quelques nuages élevés, retour des gelées ce matin, nombreuses de l'est au centre et remontée des températures. Véronique nous signale sur Facebook ce matin qu'il fait 2 à Blois, moins 1 à Voiron pour Antoine, 0 à Reuilly pour Sophie et moins 2 à Reims pour Flavienne.
La météo version longue, c'est dans 7 minutes. 46e jour de guerre et une visite surprise de Boris Johnson hier à Kiev.
Le Premier ministre britannique a rencontré hier le chef de l'État, Volodymyr Zelensky. Objectif, montrer son soutien au peuple ukrainien et annoncer la mise en place de nouvelles aides financières et militaires. C'est le premier leader du G7 à se rendre en Ukraine depuis le début de l'invasion russe fin février, Thibaut Hue.
Oui, après une poignée de main chaleureuse avec Volodymyr Zelensky, les deux hommes ont déambulé dans les rues de la capitale, l'un en costume cravate, l'autre toujours en uniforme kaki. Avant de se retirer en tête à tête, le Premier ministre britannique lui a promis des véhicules blindés et des missiles antinavires pour continuer de résister. Boris Johnson a ensuite pris la parole publiquement et en a profité pour dénoncer les massacres de civils dans la région de Kiev.
Ce que Poutine a fait dans des endroits comme Bouchka et Irpin, ces crimes de guerre ont entaché de façon permanente sa réputation et celle de son gouvernement. Nous allons augmenter la pression économique et nous continuerons à intensifier semaine après semaine la pression sur la Russie.
the sanctions on Russia.
Et le Premier ministre ne s'est pas arrêté là. Les oligarques russes seront sanctionnés, les avoirs bancaires gelés et nous cesserons d'utiliser les hydrocarbures russes. Voilà la forte prise de parole de Boris Johnson et le président ukrainien n'a cessé de le remercier tout en invitant les autres pays occidentaux à suivre l'exemple du Royaume-Uni.
À noter que plus de 10 milliards d'euros ont été récoltés par la campagne Stand Up for Ukraine lancée par l'organisation internationale Global Citizen avec le soutien de l'UE. Ce chèque doit permettre d'aider les réfugiés ukrainiens. Et sur le terrain, 5 civils ont été tués dans des bombardements dans la région de Donetsk, annoncent les autorités ukrainiennes.
Clément, c'est le grand jour. Hein. Près de 49 millions de Français sont appelés aux urnes.
Les premiers électeurs ont commencé à voter en Outre-mer et à l'étranger. Mais c'est une élection qui n'aurait pas lieu sans les assesseurs qui s'occupent du bon déroulement de la journée dans les bureaux de vote. Un rôle pas toujours facile à remplir. C'est pour cela que des journées de formation sont prévues dans les différentes villes pour apprendre à le devenir le temps d'une journée. Au Mans, une de ces formations avait eu lieu hier. Johan Tritz s'y est rendu.
Attentive et le crayon à la main, Jeanne note scrupuleusement sur son carnet les informations données par la formatrice. À 18 ans, elle a décidé d'assurer pour la première fois le rôle d'assesseur.
On a la possibilité de faire ça et je trouve que c'est important de montrer que les gens ils peuvent venir voter et que nous on est là pour eux, quoi.
Comme elle, ils sont une cinquantaine à s'être déplacés pour venir écouter la formation. Une heure et demie où tout est détaillé, manipulation de l'urne, procédure et réglementation, mais rien de bien compliqué pour Olivier.
C'est un espèce de pas à pas, du matin à l'arrivée jusqu'au soir à la clôture de l'urne, ça va, ça me paraît accessible.
Même Alizée, néophyte, assure avoir tout compris.
Il y a pas mal d'informations, mais je pense que c'est assez simple à retenir. Puis prendre des notes, c'est le plus important pour bien être sûr de ce qu'on fait là-bas, quoi.
Démarrage à 7h du matin pour une fermeture des bureaux à 19h.
Voilà, reportage de Johan Tritz. Et ce premier tour de la présidentielle n'échappe pas à l'application d'un protocole sanitaire.
S'il est moins strict que celui des élections municipales de 2020, des précautions restent de mise, hein, Yasmina Katsou.
Eh bien, aucun document lié au Covid-19 n'est demandé pour aller voter. Les électeurs n'ont pas besoin de présenter une preuve de vaccination ou un test pour se rendre aux urnes. Le masque qui a été abandonné dans les lieux clos le 14 mars dernier n'est pas obligatoire dans les bureaux de vote. En revanche, la circulation du virus étant encore très forte, il est recommandé aux personnes fragiles, immunodéprimées ou personnes âgées de porter un masque, d'autant qu'elles pourraient croiser des personnes positives qui sont autorisées à aller voter. Le gouvernement en appelle d'ailleurs à la responsabilité collective et leur demande de venir masquer. Pareil pour les cas contacts. Enfin, pour ceux qui souhaitent se laver les mains après avoir touché l'isoloir et le stylo prêté par l'assesseur, du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition dans chaque bureau de vote.
Yasmina Katou du service Société d'Europe 1. Résultat de ce premier tour ce soir, 20h, vous le savez, une élection à suivre et une soirée à suivre sur notre antenne dès 18h, 19h minuit, soirée, événement sur Europe 1 et CNews.
Et puis ça a grogné hier dans les rues. Une marche pour le futur était organisée dans plus de 80 villes, notamment à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris, à l'appel de plus de 300 associations collectives. Le mot d'ordre, que les 5 prochaines années soient celles de la justice, du climat, de l'égalité et de la paix.
Alors les scandales alimentaires se multiplient. Ferrero, Buitoni, Lactalis. Alors comment expliquer ces défaillances?
3 bactéries potentiellement mortelles sont donc à l'origine de plus d'une centaine d'intoxications à travers l'Europe. En cause, un manque de contrôle sanitaire et un non-respect des règles d'hygiène drastiques. Pour Olivier Andro du FC Que Choisir, il faut absolument que l'accent soit mis de nouveau sur le respect des règles sanitaires.
La demande de l'UFC Que Choisir, c'est d'abord de rétablir des effectifs de contrôleurs officiels qui soient à la hauteur du grand nombre de tâches qui leur incombent. La deuxième chose, c'est une gestion absolument transparente de ces crises alimentaires. À ce jour, lorsque la répression des fraudes ou les services vétérinaires publient les résultats de leur contrôle officiel, c'est toujours anonymisé. Pour nous, il est important que les professionnels qui ne sont pas dans les clous au niveau d'hygiène, eh bien, il est important qu'on connaisse le nom, il est important que l'on connaisse les usines qui sont responsables.
Des propos recueillis par Guillaume Dominguez.
Allez, on va à Lyon à présent, où se déroule le salon de l'automobile jusqu'à demain.
L'occasion de découvrir des nouveautés, notamment la Mégane Renault électrique. Après la réussite de la Zoé en tant que pionnier, le constructeur automobile doit désormais lutter avec une concurrence accrue. Aurélien Fleureau l'a essayé en avant-première.
Elle a tout d'une Mégane, mais en plus moderne, plus aérodynamique, plus légère et plus connectée, avec deux écrans 12 pouces, des mises à jour automatiques et l'univers Google intégré. Ce n'est pas pour autant une Tesla. Renault garde ses fondamentaux pour ne pas trop perturber ses clients et jouer la polyvalence. Nicolas Péan, directeur marketing produit.
Pour faire de la route, pour faire de la ville, on a une petite batterie qui fait 300 km d'autonomie, on a une grosse batterie qui fait jusqu'à 470 km d'autonomie. On a différents types de charges pour le domicile, pour la borne publique, pour la charge rapide sur autoroute. On va pouvoir répondre à tout type d'usage de nos clients.
Renault a renoué avec les bénéfices en 2021. En réduisant ses coûts, il faut désormais reconquérir les clients, espère le directeur général Luca De Meo.
Ben non, on veut bien établir ce produit comme il le mérite, comme un des leaders du marché de l'électrique. Je pense que ça fait 10 ans qu'on y travaille. Peut-être à un moment, on a eu des hésitations sur la montée de l'électrique. Maintenant, on n'hésite plus. Et la Mégane, c'est une bonne démonstration de ça.
Issue de la nouvelle plateforme de l'usine de Douai, c'est la première voiture d'une série qui doit faire de Renault un constructeur de voitures électriques et même une tech compagnie, comme le dit Luca De Meo, et concurrencer Tesla, Volkswagen ou Stellantis.
Un reportage d'Aurélien Fleureau. Le salon de l'auto de Lyon ferme ses portes demain.
Allez, un petit mot de football avec la 31e journée de Ligue 1.
Ouais, large victoire du PSG hier, 6-1 face à Clermont. Et un peu plus tôt, Rennes s'est imposé 3-2 face à Reims.
Neymar et Mbappé qui sont en une de l'équipe ce matin, bras dessus, bras dessous. La balade des As, c'est le titre de l'équipe. C'était le journal de Clément Gouise. À tout à l'heure, Clément. La météo, Valérie Darmon. On met une petite laine ce matin, hein.
Et oui, faible gelée sur le nord-est et des minimales proches de 0 degré de l'Alsace, Hauts-de-France, oui, en passant par la région parisienne. Ça glisse même, doudoune, bonnet, ça glisse sur vos routes par endroits. Grosse nappe de brouillard d'ailleurs ce matin sur le Mâconnais. Gelée aussi dans le sud-ouest, on attend 4 à 7 degrés sur la façade atlantique, 6 à 10 en bord de Méditerranée, moins 4 à Charleville-Mézières et Beauvais, moins 3 à Montluçon, moins 2 à 3, moins 1 à Bourg-en-Bresse, Manosque et Alençon, ainsi que Clermont-Ferrand. 0 à Strasbourg, à Poitiers en région parisienne, 1 à Angoulême, 2 à Saint-Girons, 3 à Carcassonne, 4 à La Rochelle et 5 à Biarritz.
Et ça se réchauffe cet après-midi, bien sûr.
Et oui, sous l'effet du soleil, on s'effeuille aujourd'hui. Les maximales qui sont comprises entre 10 et 14 degrés sur un bon quart nord-est, 14 à 20 dans le sud, jusqu'à 24 en Aquitaine. On finit en t-shirt, 5 degrés de plus qu'hier.
Et le ciel ?
Eh bien, le ciel, il est bleu, passé ces quelques bancs de brouillard présents, donc au lever du jour sur ces régions du nord-est, cette grisaille qui se dissipe rapidement, qui laisse place aux éclaircies, le ciel qui restera un petit peu voilé de la Bretagne à la région parisienne et plus au sud, le soleil qui est déjà présent dès son lever, le vent d'autant qui devient sensible au fil des heures.
Merci Valérie, à tout à l'heure. À 7h10, on partira en balade, vous le savez, avec Vanessa et Marion. D'abord à 7 où débute la fête maritime Escale à 7, et puis on va déguster des fraises, des Bouche du Rhône, mais tout de suite, Philippe Legrand.
Tout de suite, l'entretien de Philippe Legrand avec Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Tous les dimanches, vous le savez, un invité des archives, on regarde dans le rétro, une date, une histoire. Ce matin, les confidences du pianiste Richard Clayderman. Bonjour Philippe Legrand.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 1999, direction Taïwan. Bonjour Richard Clayderman.
Bonjour Philippe, bonjour à vous tous.
Vous êtes le pianiste français contemporain le plus célèbre dans le monde. Plus de 90 millions d'albums, plus de 2000 concerts, 340 disques d'or et de platine. Richard Clayderman, vous avez rendu populaire le piano avec votre ballade pour Adeline qui se classe parmi les 5 mélodies les plus diffusées au monde. Richard Clayderman, vous qui avez été le pianiste de Thierry Leluron, votre parcours artistique en fait rêver plus d'un. Il faut avouer que votre père, professeur de musique, avait vu juste vous entrez dans le monde de la musique classique dès l'âge de 6 ans, du conservatoire à la scène. Les œuvres de Mozart, Chopin, Wagner ne vous quitteront pas. À ce propos et avec humour, le chanteur Renaud a dit de vous que vous étiez le Mozart du Walkman. Il a même chanté, à vrai dire, c'est plutôt un compliment. Avec vous, la musique classique est entrée dans tous les foyers. Votre nouvel album Forever Love en est la preuve. Ce matin, Richard Clayderman, vous avez choisi de revenir sur le 22 septembre 1999. Taïwan est réveillé par un violent tremblement de terre. Un Français sur place témoigne au micro d'Europe 1.
On est en train de dormir. Donc très forte secousse et un très gros bruit de meubles et de différentes choses dans l'appartement qui remuait, et c'était exceptionnellement fort et avec un très gros bruit. Les choses, les bibelots ou les choses sur les meubles sont tombées effectivement, et surtout un mouvement de va-et-vient permanent qui a duré presque une demi-heure. On ensuite une accalmie, je pense, qui a duré une heure, et suivie encore de secousses pendant deux heures.
Une secousse ou des secousses plutôt, hein, d'une amplitude incroyable. On a dit à l'époque, Richard Klederman, 7,3 sur l'échelle de Richter, l'un des plus grands tremblements de terre. On est ce 22 septembre 1999. Pourquoi avoir choisi cette date ?
Bien, c'est une date qui m'a énormément marqué. Nous étions en tournée donc à Taïwan avec mes musiciens et puis me retrouver après le concert de Taipei. Nous sommes allés dîner, nous sommes allés dormir. Et en pleine nuit, comme ça, sur le coup de 3h ou 3h30 du matin, il y a eu ce bruit déjà assourdissant. Et comment dirais-je, voilà, j'étais sur le lit. Heureusement que j'avais des barreaux sur la tête de lit. Je n'ai pu que m'accrocher. Et pendant de longues minutes, vraiment longues minutes, j'étais ballotté de droite à gauche. Les murs de la chambre allaient de droite à gauche. Tout ce qui était accroché bougeait énormément, donc c'était très très impressionnant, et je me suis rendu compte que nous, humains comme ça, on est rien contre Dame Nature, donc ça a été terrible, c'était un moment qui restera gravé à jamais. Il y a eu énormément de morts, je crois qu'il y a eu 1700 morts.
Oui, 1712 morts, effectivement, et plus de 4000 blessés. Oui. Donc, avant de parler de l'extérieur, restons sur, au fond, ce que vous avez vécu. On sent, à travers ce que vous nous dites, Richard Klederman, que, au fond, c'était en 1999, mais c'était comme si c'était hier. C'est un souvenir qui vous a profondément marqué, la main sur les barreaux pour tenir et ne pas être emporté.
Tout à fait. Et alors, curieusement, je sais que mes musiciens, eux, ont réussi à quitter l'hôtel. Alors, c'est une construction antisismique, hein, donc ça va, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de décès, de mort dans cette catastrophe à l'hôtel. Mais je dois dire que c'était très impressionnant. Je ne pouvais que rester au lit accroché. Et ça, ça restera vraiment gravé dans ma mémoire, puisque après, je tourne souvent aussi au Japon. Il y a des répliques aussi quotidiennes, mais ce sont des petites répliques. Mais d'avoir vécu un grand tremblement de terre.
La terre tremble, et donc là, est-ce que ça vous a aussi, au fond, même si c'est très difficile de l'être, armé pour vous protéger ? On se met à l'abri, il y a des exercices qui sont proposés par les hôtels dans lesquels on réside.
Exactement,
c'est ce qu'on dit au Japon d'ailleurs.
Oui, tout à fait, ils ont des exercices quotidiens. Donc non, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai pu continuer comme à faire mes tournées.
Vous êtes sorti de l'hôtel. Vous avez pu sortir ou pas? Il a fallu attendre. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là?
Non, en fin de compte, je suis resté dans la chambre, je suis accroché à mon lit et je ne suis pas sorti en fin de compte. Ce sont mes musiciens qui sont sortis. Alors, et après, beaucoup d'entre eux sont restés dans le hall de l'hôtel en train d'essayer de n'avoir pas peur, surtout d'éventuelles répliques. Mais on nous dit, voilà, faut attendre, on peut rien faire. C'est terrible.
Et puis il y avait ce titre, hein, c'est un titre entre autres de la presse française, Libération, qui mettait à la une Taïwan sapé par le séisme. C'est un titre que vous avez certainement en tête. Vos musiques, elles font le tour du monde, et en particulier celle de votre nouvel album. Ça fait partie, au fond, de cette actualité qui est la vôtre. Richard Klederman, Forever Love, c'est le titre que vous avez choisi pour ces deux faces des tubes entre classique et moderne. Je pense entre autres à Viva la Vida et Perfect Symphony, entre autres. Comment avez-vous composé ce double CD ?
Alors, double album, donc avec. J'étais très content après cette période de Covid de pouvoir retrouver le studio. Donc, j'ai enregistré 12 titres pour ce premier album. Et sur le second album, il y a des reprises que j'ai enregistrées il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, une vingtaine de morceaux.
Il y en a une qu'on ne peut pas oublier, hein, qu'on a tous en tête. Oui. On vous la redemande à chaque fois, Balade pour Adeline.
Tout à fait, c'est-à-dire que depuis, c'était mon premier enregistrement en 77, et depuis je l'ai joué des milliers de fois en télévision et en concert, et puis je continue bien sûr à l'interpréter.
Alors, Richard Clayderman, Mozart est pas loin de vous, il en a inspiré beaucoup et vous en faites partie. Il y a toujours une date anniversaire, au fond, quand on regarde la vie de Mozart. Et cette année 2022 est une année anniversaire aussi, qui célèbre le musicien, le 240e anniversaire de son mariage avec Constance Weber. C'était en 1782. Ce Mozart-là est un Mozart amoureux, passionné. Il a aussi compté dans votre vie.
Oui, tout à fait, dans mes études classiques. C'est-à-dire, j'ai commencé avec la musique classique, et puis c'est la base de ce que je fais maintenant. Mais bon, ce que je voulais faire, c'était après faire quelque chose de différent avec la musique. Mais Mozart a compté énormément, comme Beethoven, comme Chopin, exactement. Ce sont des compositeurs extraordinaires pour des pianistes, des musiciens.
Il y a 32 morceaux en tout dans Forever Love, oui. Hein, quand on fait l'addition de ce double CD. C'est votre actualité. Merci d'être venu sur Europe 1, Richard Clayderman. On a avec vous revisité ce 22 septembre 1999, un moment dur, difficile, le tremblement de terre à Taïwan que vous avez vécu. Et on va se quitter avec, elle est dans votre playlist et probablement dans la playlist d'un certain nombre d'entre nous. C'est votre balade porte-bonheur, hein, qui a beaucoup compté, qui continue à compter, cette balade pour Adeline. À bientôt.
Merci à vous, Philippe.
Adeline, c'était Richard Clayderman, l'invité de Philippe Legrand ce matin.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec le roller maux de tête Pure Essentiel. 9 huiles essentielles 100% naturelles pour soulager vos maux de tête. Pure Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Dispositif médical. Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
7h-10, l'essentiel de l'info de ce dimanche, Clément Gouise.
C'est l'heure du choix pour 49 millions d'électeurs français. Ils doivent élire leur nouveau président pour les 5 prochaines années. 12 candidats sont en lice. Le vote, lui, a déjà débuté hier à l'étranger en Outre-mer. Certains experts craignent une abstention record entre 28 et 30%. Résultat à 20h. Et visite surprise de Boris Johnson à Kiev. Le Premier ministre britannique a rencontré le chef de l'État Volodymyr Zelensky. Objectif, montrer son soutien au peuple ukrainien et annoncer la mise en place de nouvelles aides financières. Il promet des véhicules blindés, des missiles anti-navires. Une marche pour le futur était organisée hier dans plus de 80 villes, notamment à Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris, à l'appel de plus de 300 associations collectives. Le mot d'ordre, que les 5 prochaines années soient celles de la justice, du climat, de l'égalité et de la paix. Large victoire du PSG 6-1 face à Clermont grâce à un triplé de Neymar et un autre triplé de Mbappé. Un peu plus tôt, Rennes s'est imposé 3-2 face à Reims.
Merci Clément. À 7h, on sera en Ukraine avec notre envoyé spécial. Il va nous raconter les difficultés d'identifier les victimes de guerre sur le terrain. Et puis, ces jours de vote, vous le savez, on verra les différentes incitations pour donner envie d'aller aux urnes. Mais avant cela, dans 2 minutes, notre balade du dimanche avec Vanessa et Marion, direction 7, puis les Bouches-du-Rhône. C'est votre matinale week-end sur Europe 1. On parle de vous, on revient.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche, je vote Vanessa, je vote Marion, les élus de mon cœur.
Bonjour Thierry. C'était beau Thierry, magnifique.
Vanessa, ce matin, on part en balade dans l'Hérault à 7 dans le golfe du Lion pour l'événement Escale à 7.
Exactement, on va fêter la Méditerranée, les amis. C'est tradition maritime, parce que c'est le grand retour des escales. Elles ont été annulées à la dernière minute en 2020, à cause du Covid. Et donc, comme elles n'ont lieu que tous les deux ans, eh bien, ça va être hyper festif. En plus, ils sont très, très fiers, les Sétois, de cet événement. Surtout que c'est la seule fête maritime sous le patronage de l'UNESCO. Et donc, ça se déroule sur 7 jours. Et le coup d'envoi, c'est mardi.
Bon, il y a un événement incontournable ou pas?
Alors, plusieurs, mais pour moi, il y en a un qui est particulièrement fort. C'est un peu la tête de proue du patrimoine historique et maritime, hein, c'est toi. Ce sont les tournois de joutes languedociennes. Alors, les joutes, c'est pas du folklore. Attention, c'est un véritable sport national. C'est-à-dire que les enfants, quand ils doivent choisir leurs activités, il y a la danse, il y a le foot, mais à 7, il y a aussi justement la joute. Alors, attention, c'est très, très physique. Donc, en général, c'est vraiment les garçons qui s'y collent. Mais il y a beaucoup de petites filles qui commencent à s'y mettre. Alors, ces joutes, elles remontent à l'époque des croisades. Et à 7, à l'inauguration du port, le 29 juillet 1666, quand Louis XIV lance des joutes nautiques, donc dans le canal de 7, entre les chevaliers et la tintaine. La tintaine, pourquoi on les appelait comme ça? Parce que la tintaine, en fait, c'est le plancher sur lequel ils se reposaient justement avant d'aller au combat.
D'accord.
Alors, ça ressemble à quoi, une joute? Bah, c'est Wolfgang Idiri, qui est le fondateur et le directeur de l'association Escale à 7, qui va nous répondre.
C'est un sport qui est très spectaculaire. Il y a deux barques qui arrivent, qui sont propulsées par 10 rameurs, chacune des barques. Et là, il y a des jouteurs qui peuvent être des colosses, qui peuvent aller jusqu'à 200 kilos, hein, et qui s'affrontent avec des lances et des pavois. Donc voilà, c'est très violent, c'est des armes qui sont très lourdes, c'est très dangereux et très spectaculaire. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est notre tradition. Il y a toute une culture qui va avec. Il y a des rituels, il y a des chansons, des histoires avec des légendes. Donc Escale à 7 verra au printemps le retour des joutes languedociennes à 7, qui est la capitale des joutes languedociennes.
Donc Thierry, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Faire 200 kilos. Hein,
ouais, c'est pour, ça. Bon,
j'ai un peu courage. De marge encore. Marion, allez-y.
On va plutôt rester sur la terre ferme avec d'autres rendez-vous à nous conseiller.
Alors justement, à terre, le moment phare, c'est le grand défilé des équipages qui va avoir lieu donc samedi prochain. Alors à chaque fois, c'est l'effervescence. Il y a quand même 1000 personnes qui défilent. Il y a une vingtaine de groupes de musique maritime. Puis alors, toutes les traditions sont représentées. Hein. Vous avez les jouteurs, les pêcheurs, les charpentiers de marine qui viennent aussi de Croatie, mais aussi des Pays-Bas. Ce sont les invités d'honneur du monde entier. En fait, on se retrouve là, dans le premier port de Méditerranée. Et qui dit premier port de Méditerranée, dit aussi escale assiette. Jeu de mots, vous avez compris? Assiette, assiette.
Oui, bien.
Je vous mets l'eau à la bouche.
Oui.
Escabèche, soupe de poisson, moule farcie,
la tielle
de sèche. Et la tielle, exactement. Donc voilà, là, vous resterez bien à table. Ouais. Les pieds sur terre,
c'est
Thierry.
Bien.
Et puis, pour finir, ça se fait en beauté, c'est lundi de Pâques, la grande parade de départ. Les bateaux sortent en mer. C'est assez grandiose, surtout par beau temps. Donc, on croise les doigts.
Belle idée
120
pour les vacances,
navires
hein.
du patrimoine avec les plus grands voiliers du monde.
D'accord. Côté hébergement, quelques bonnes adresses.
Alors, l'hôtel L'Orque Bleu avec vue sur le cadre royal. Alors ça, c'est idéal, hein, pour assister aux navirades et aux joutes. L'hôtel Port Marine, qui a deux bas de la criée, ou sinon du côté du quartier de la Corniche, vous savez, c'était le quartier préféré de Brassens, l'hôtel Impérial, avec une magnifique terrasse pour un cocktail avec vue sur la mer.
Parfait.
Et alors Thierry et Marion, je crois qu'on peut dédier cette balade sétoise
à notre auditrice
Marie-Rose.
On embrasse. Merci à elle. Alors Marion, avec vous, nous partons dans les Bouches-du-Rhône cette semaine et on me chuchote que vous auriez une envie furieuse de fraises.
On va cueillir le fruit de printemps par excellence. Le premier fruit rouge à rejoindre nos étals, il a pointé le bout de son pédoncule dans le sud-est de la France. Ça y est, enfin, c'est effectivement la fraise. La saison commencer avec ces derniers jours, des nuits compliquées, très froides. D'ailleurs, on pense très fort à nos agriculteurs, bien sûr, qui,
évidemment,
pour certains, on va avoir quelques pertes. Hein.
Mais oui, ouais.
Thierry, Vanessa, vous les sentez, ces fraises, vous les goûtez d'ailleurs.
C'est mon fruit préféré. Très bon.
Et alors?
Et pourtant, moi, je suis fraise de Plougastel, près de chez moi. Et honnêtement, celles-là sont très, très bonnes.
Elles sont délicieuses. Ce sont des ciflorettes, saveur fraise des bois, une couleur un petit peu plus claire que d'habitude, mais une chair bien fondante. Elles sentent bon, ça, c'est essentiel. Alors, il existe 135 variétés de fraises en France.
Ah ouais?
On connaît la Charlotte, la Cléry, qui sont bien sucrées, ou encore la Garriguette, qui est un peu plus acidulée. Nous sommes au tout début de la saison, mais qui dit début de saison ne dit pas des fraises sans goût et fades. Hein. Ces fraises sont cultivées en pleine terre par Camille Poulet. Et comme elle explique cette productrice passionnée basée à Saint-Rémy-de-Provence, tout est une question de terroir.
On va avoir une fraise qui est totalement différente en fonction des modes de production. Pleine terre, ce sont des produits avec des méthodes presque ancestrales de culture. Ça se perd parce que c'est un boulot vraiment difficile de ramasser des fraises toute la journée accroupie. Il y a aussi un aléa de rendement qui fait qu'on a des rendements qui sont beaucoup moins importants qu'une fraise hors sol, par exemple. Nous, on se sert vraiment de tout ce qu'il y a dans le sol pour que ça s'exprime et forcément, on maîtrise un peu moins nos rendements. Par contre, évidemment, tout le travail qu'on y met, on le récupère en goût, en gustativité.
Et les fraises de Camille, donc cultivées avec amour, vous les retrouvez partout en France sous le label Gustatif et Solidaire, un label que j'adore, qui met en valeur le travail des producteurs et les rémunère à juste prix.
Je note alors.
Comment on les cuisine, Marion, alors ?
On les triture pas trop, surtout Thierry, comme vous êtes en train de le faire. Ce sont des fruits fragiles.
Je retiens la queue.
On les consomme rapidement. Et pour changer de la tarte aux fraises, je vous propose un tartare pour garder le bon goût du fruit. Alors on commence par émietter des sablés qu'on place au fond du une assiette. Vous pouvez vous servir d'un n'importe-pièce pour que ce soit plus simple. Ensuite, par-dessus, vous réalisez une crème de mascarpone.
Ah,
un
ça,
petit
ça,
mélange
j'adore.
De jaune d'œuf et de sucre bien mousseux avec le mascarpone par-dessus. Vous terminez par les fraises que vous découpez en petits dés, mélangés à des pistaches. Vous allez voir, c'est tout simple. Voilà. C'est frais, c'est gourmand.
C'est bon.
C'est le week-end, on mange des fraises.
Et simplement avec un peu de sucre aussi, c'est parfait.
Mais oui, bien sûr. Mais il n'y a même pas besoin de sucre avec ces fraises-là.
C'est vrai. Merci beaucoup Marion. Bien sûr, on retrouve la recette de ce tartare de fraises sur europe1.fr et le podcast de votre balade, mesdames, sous le nom Week-end Évasion.
Bon week-end. Dimanche, à la semaine prochaine.
Bon réveil sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Il est 7h.
Europe Matin Week-end, Thierry Dagiral.
Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Toute l'information avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Après les bombardements et les massacres en Ukraine, comment rendre les corps aux familles ? Reportage à Borodianka dès le début du journal.
Comment inciter les Français à aller voter entre militants de terrain et initiatives originales ? On en parle ce matin sur Europe.
Dans ce journal également, puisque c'est dimanche, le sport, le carton du PSG à Clermont et du tennis avec le tournoi de Monaco. Répétition générale avant Roland-Garros, ça commence aujourd'hui.
Dans la prochaine demi-heure, retour sur le scandale Orpea avec l'avocate des familles, maître Sarah Salman, mon invité dans 10 minutes. Et puis à 7h23, Mathieu Alterman nous dira que les plagiats musicaux sont de retour. D'abord la tendance météo avec vous, Valérie Darmon.
Eh bien, l'anticyclone remonte d'Espagne vers l'Allemagne. Il rejette le mauvais temps vers la Scandinavie. Ce dimanche, c'est donc soleil pour tout le monde, passé les quelques brouillards matinaux et les routes givrées dans l'Est.
Météo complète dans 7 minutes. Nous sommes à Borodianka ce matin, ville fantôme depuis le retrait des troupes russes.
La ville est en ruine et tous les jours, des corps sont sortis des fosses communes et des décombres, ce qui pose d'importants problèmes d'identification des dépouilles. Les secouristes, vous allez les entendre, s'organisent avec les moyens du bord pour apporter des réponses aux familles dont les proches ont disparu. William Molinier les a rencontrés pour Europe 1.
Voilà ce qui reste de ce monsieur, il est mort là-bas.
Tout tient dans une simple boîte à chaussures que Vladimir a tenu à nous montrer. Sur le carton, il a inscrit au feutre noir la date du décès, le 2 mars 2022.
Quand le missile est tombé, l'onde de choc a traversé le bâtiment. La seule chose qu'on ait trouvée, ce sont ses ossements à côté des ressorts brûlés sur le canapé.
S'il a fait cette macabre collecte, c'est parce qu'il a eu au téléphone la petite fille de son voisin décédé. Cette dernière vit au Canada, elle souhaitait pouvoir récupérer les restes de son grand-père. Chaque jour, des dizaines de familles se pressent à la sortie des chambres froides pour tenter d'identifier leurs proches disparus. Long périple, reconnaît le maire de la ville, Yorgi Yerko.
D'abord, il faut sortir les corps des décombres. Ensuite, ils sont transportés à la morgue. Mais comme elles sont toutes remplies, on les envoie vers une ville à 100 km d'ici. On fait des prélèvements. Si la dépouille n'est pas identifiée, on espère qu'un jour elle le sera.
Viendra ensuite l'enquête sur les circonstances du décès. Les services de la procureure générale ont commencé à entendre des témoins. Certains évoquent des exécutions sommaires d'habitants justifiées par le simple fait d'avoir prononcé des mots en ukrainien. Borodianka, William Molinier, Europe 1.
Hier, c'est Boris Johnson qui a effectué une visite surprise à Kiev au cours de laquelle il a déambulé dans les rues de la capitale aux côtés de Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre britannique a apporté une aide militaire à l'Ukraine, des véhicules blindés et des missiles anti-navires.
Alors Lénaïque, l'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr le premier tour de l'élection présidentielle.
Votons, point d'exclamation, titre ce matin le journal Le Parisien, car il plane sur le scrutin le spectre d'une abstention record, 30% estimée dans certains cas, ce qui serait du jamais vu depuis 20 ans. Des associations se mobilisent donc jusqu'au dernier moment pour convaincre de se rendre dans l'isoloir. Écoutez, Ninon Lagarde, elle est membre de l'association Tous élus.
On sera présent dans une petite dizaine de villes en France pour aller rappeler dans les quartiers les plus abstentionnistes aux gens d'aller voter, mais aussi leur ramener sur place directement les infos, comme où est mon bureau de vote, jusqu'à quelle heure je peux aller voter et quelle pièce d'identité je dois ramener pour pouvoir avoir le droit d'aller voter. Par exemple, on rencontre énormément de gens dans la rue persuadés de la nécessité d'avoir sa carte d'électeur pour avoir le droit d'aller voter, alors qu'elle ne sert pas à grand-chose et qu'elle n'est pas du tout obligatoire pour se déplacer. Ce qu'on observe, c'est que le discours de culpabilisation de l'abstentionniste avec les luttes historiques pour acquérir le droit de vote, etc., fonctionne assez peu dans la mobilisation, notamment des jeunes. Nous, on se place du côté pratico-pratique. C'est ce qui fonctionne le mieux de notre côté, c'est ce qu'on observe dans cette campagne.
Et propos recueillis par Thibaut Hu pour Europe 1. Justement, ces questions pratiques, on vous les rappelle, les bureaux de vote ouvrent dans une heure et vous avez jusqu'à 19h pour aller voter, voire 20h dans les grandes villes.
Et tous les moyens sont bons pour encourager à aller voter, avec parfois des initiatives originales.
Un tampon sur la carte d'électeur contre un forfait quasiment gratuit de ski. Maud Descamps, c'est ce qu'a mis en place la station de ski des Gers en Haute-Savoie.
Oui, et avec une économie de 35 euros à la clé, c'est ainsi que la station a décidé de fêter son dernier jour de ski, puisqu'à partir de ce soir, les remontées fermeront jusqu'à l'hiver prochain. Pas besoin pour les électeurs de faire le choix entre voter ou skier, les deux sont possibles. C'est ce que veut montrer Benjamin Munier, directeur marketing de la station de sport d'hiver, à l'origine de cette initiative.
Vous savez, des fois, on oppose les scrutins électoraux au loisir. Les spécialistes de l'abstention vont dire qu'il faisait beau, les gens préfèrent être à la plage, en montagne, dans les parcs. Et ben nous, on se résout pas à ça. Au GER, on a décidé d'être proactif et de dire on peut faire les deux dans la même journée et on va vous inciter à le faire grâce à cette opération. C'est à notre petit niveau, mais on pense faire bouger quand même les lignes, et de ce qu'on a eu et des gens qui nous ont appelés cette semaine pour cette opération, on sait qu'il y a des gens qui n'avaient pas prévu d'aller voter, qui grâce à ça vont le faire, donc on est content.
Il suffit donc de glisser votre carte d'électeur dans la poche de votre tenue de ski et de la montrer au moment d'acheter votre forfait.
Les explications de Maud Descamps pour Europe 1.
Et pour ne rien manquer de cette élection, les rédactions d'Europe 1 et de CNews se mobilisent depuis les QG des candidats dans nos studios. Rendez-vous dès 18h et jusqu'à minuit.
Et en attendant de connaître le résultat, cette tribune ce matin dans le JDD, 14 associations pour interpeller le prochain chef de l'État, des organisations qui demandent une loi pour le grand âge dès les 100 premiers jours du futur gouvernement. Les signataires réclament une augmentation décisive des moyens humains dédiés à l'accompagnement de nos aînés.
Et voilà qui fait écho au scandale des EHPAD Orpea, accusé de maltraitance. Je reçois Sarah Salman, l'avocate des familles des victimes, juste après ce journal. Les sports, on parle tennis avec le tournoi de Monte-Carlo qui débute aujourd'hui.
Oui, il donne le coup d'envoi de la saison européenne de terre battue. C'est un petit peu la répétition générale avant Roland-Garros, Axel May.
Oui, le soleil, la mer Méditerranée, l'ocre des cours. Le prestigieux tournoi de Monte-Carlo donne véritablement le top départ de la saison sur terre battue. Un changement de surface qui demande un temps d'adaptation, avec en ligne de mire Roland-Garros. Hugo Nice est monégasque, il répond pour Europe 1 à Frédéric Hélion.
Monte-Carlo, on l'attend chaque année avec impatience. Mais ouais, c'est le début de la terre, là ça sent bon le soleil, enfin. Et les glissades et tout ça, donc on est très motivé. Voilà. Ensuite, on pensera à Roland-Garros.
Cette année, l'homme qui incarne la terre battue à lui seul, Rafael Nadal, n'est pas là. Blessé à une côte, il va certainement manquer aussi Barcelone. Absent également, l'éphémère numéro 1 mondial, le russe Daniil Medvedev, opéré d'une petite hernie. Il devrait même rater Roland-Garros. En revanche, Novak Djokovic est bien là pour son deuxième tournoi de l'année seulement, après l'incroyable imbroglio de l'Open d'Australie.
Axel Medi, service des sports d'Europe 1. Et puis un score de tennis, tiens, hier soir pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1, 6-1 à Clermont, avec deux triplés signés Neymar et Mbappé. Oui, je l'ai travaillé celle-là.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure. Tiens, avant de passer à la météo, on va saluer Francine sur Facebook qui se prépare en nous écoutant et qui va tenir un bureau de vote aujourd'hui. Et puis Fabrice sur Twitter nous rappelle que c'est aussi le dimanche des rameaux aujourd'hui pour les catholiques. Voilà. Valérie, quel est le programme alors de ce dimanche de vote ?
Eh bien, des côtes de la Manche aux Alpes, en passant par le bassin parisien, le centre, la Bourgogne, le Jura, le massif central, vous profitez d'une belle journée sous un plein soleil. Le froid est en revanche très marqué ce matin.
Avec des gelées généralisées, il fait moins 5 en Auvergne et dans le Jura. Des Hauts-de-France à l'Alsace, à la Lorraine, le ciel qui est voilé aussi. Et cet après-midi, ça va rester frais avec 10 à 13 pour maximale. De la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, aux Pyrénées, le voile nuageux est présent aussi. Mais les températures s'envolent, c'est votre consolation. Le thermomètre atteint aux heures les plus chaudes 14 à 20 degrés du Morbihan Hollande, avec 22 degrés en pointe sur le Pays Basque, qui sera la région la plus douce de France. Et puis enfin, près de la Méditerranée, en Corse, disparition du Mistral et de la Tramontagne, sous des valeurs entre 18 et 20 degrés, mais renforcement du vent d'OTAN dans son domaine.
Merci Valérie, on se donne rendez-vous bien sûr à 7h30. Restez avec nous à suivre l'interview actuelle à déposer en début de semaine 80 plaintes de victimes de la maison de retraite Orpea. Elle va donc se battre contre ce gros groupe puissant. Maître Sarah Salman sur Europe 1, c'est dans un instant, à tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
L'interview actu de ce dimanche matin, 7h11. Bonjour Maître Sarah Salman.
Bonjour.
Vous êtes l'avocate des victimes et des familles des victimes de la maison de retraite Orpea. Vous avez déposé en début de semaine plusieurs dizaines de plaintes. On va bien sûr en reparler dans un instant. Mais d'abord, le gouvernement a finalement publié le rapport de l'IGAS sur la gestion Orpea. Pour vous, c'est une bonne chose, ça avance enfin ?
C'est une première étape fondamentale, mais pour moi ce n'est qu'un début. D'ailleurs, ce rapport est quand même assez accablant, ce qui contraste fortement avec les premières interventions de M. Charrier qui minimisait les choses.
Le patron d'Orpea.
Le nouveau PDG d'Orpea, effectivement, qui a pris ses fonctions juste après le séisme, si on peut dire.
Ouais.
Et ce rapport est essentiel aussi pour les victimes qui se disent « on n'est pas seul à dire ça ». Donc c'était vraiment une étape fondamentale, mais qu'un début.
Alors qu'apprend-on dans ce rapport ? Orpea a fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Le groupe a touché 360 millions de financements publics. On y apprend que les directeurs d'établissement ont peu de marge de manœuvre, qu'ils touchent des primes et des bonus. Bref, on constate là qu'il y a une logique financière très claire.
Une logique capitalistique imparable. Et je vais vous dire, les familles que je représente, au début, elles pensaient qu'elles payaient uniquement de leur poche, à savoir ticket d'entrée à 2500 euros, 12 000 euros au plus cher, elles se disaient c'est déjà énorme. Et ce qu'on apprend en plus, et c'est là que c'est scandaleux, c'est qu'il y a des subventions publiques. Donc si on cumule le tout, eh bien on peut dire qu'Orpea s'en met plein les poches, au détriment des résidents qui, eux, sont rationnés. Et ça, je pense que dans le rapport, on peut quand même le souligner. Et les résidents n'ont même pas le minimum, alors que les familles payent des sommes considérables.
Combien
entre 2500 euros et 12 000 euros
par mois. Le PDG du groupe Orpea, Philippe Charrier, a présenté ses excuses. C'est suffisant ?
C'est complètement insuffisant et je ne comprends pas pourquoi ne pas l'avoir fait au tout début. Et je vais vous dire ce qui est choquant avec ces excuses. C'est que moi, je reçois des signalements et des demandes de plaintes tous les jours pour des faits qui remontent à moins de 3 mois. Donc très récents. Donc, ce qui veut dire que depuis la sortie du livre et maintenant... Les Fossoyeurs de Victor Castanet... Apparemment, dans ce que je reçois, il n'y a pas de changement majeur.
Vous avez déposé combien de plaintes au parquet de Nanterre depuis le début de la semaine ? Il y a eu des nouvelles ou pas ?
Je vais les déposer par groupement.
D'accord.
Ça veut dire
donc
que
il y a eu 80 plaintes début de semaine.
Exactement. Et ensuite, c'est des groupements pour éviter d'en déposer une par une.
Donc,
c'est l'idée.
Il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres.
Vous avez eu combien de signalements à ce jour ?
Plus de 1000. Donc, ce qui est quand même énorme, dans ces signalements, il y a à peu près une personne sur trois qui est un soignant ou un ancien soignant. Ce sont des personnes qui écrivent souvent anonymement, mais les faits sont tellement concordants que je ne peux pas remettre en cause la véracité de leurs propos. Et également des familles de victimes, des témoins, et ce sont des témoignages accablants.
Et elles visent mettre certains établissements d'Orpea plus que d'autres ?
Beaucoup plus celui du département des Hauts-de-Seine, 92, effectivement. Mais sinon, il y a toute la France, on peut le dire.
Ce sont des familles qui attaquent ?
Ce sont des familles, pourquoi ? Parce que les résidents sont souvent très âgés. Imaginez un résident qui a Alzheimer, qui est seul. Est-ce qu'il va prendre son téléphone et m'appeler ? C'est impossible parce qu'il est esseulé. Malheureusement, les gens qui sont en première ligne, à savoir qui n'ont pas de famille, eh bien, ce sont les personnes que je ne vais jamais avoir leur retour.
Maître Sarah Salman avec nous ce matin sur Europe 1, l'avocate des victimes et des familles des victimes de la maison de retraite Orpea. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces familles ? Qu'est-ce qu'elles vous rapportent ?
Elles me rapportent des faits qui sont concordants et assez graves. Ça veut dire des rationnements, un amaigrissement, une déshydratation qui est constatée par des éléments médicaux comme des rapports de SAMU, mais aussi un délaissement. Ça veut dire des personnes qu'on couche à 16 heures pour avoir la paix, des personnes que l'on rend incontinente, ça veut dire la personne arrive, elle peut aller aux toilettes, mais il lui faudrait une aide.
comme on ne peut pas lui apporter cette aide parce qu'il n'y a pas assez de monde, tout le monde a une couche et ça va plus vite. Donc c'est une logique pour aller plus vite, pour mettre moins de personnel au détriment des résidents.
Dans les qualifications de ces plaintes, il y a aussi homicide involontaire, violence par négligence et vol. Vol ?
Le vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, c'est-à-dire par exemple des personnes qui arrivent avec une valise pleine, ce qui est normal puisqu'elles vont passer peut-être de tout le restant de leur jour là-bas.
Bien sûr.
Et elles repartent avec rien, et j'ai même des constats d'huissier qui le prouvent, où quand on ouvre l'armoire, il y a une chemise de nuit, avec des personnes qui sont arrivées avec des valises entières. Alors la difficulté du vol, c'est que c'est un peu plus difficile à prouver que le reste.
Ces familles également vous envoient des photos, vous parlez de photos glaçantes.
C'est des photos qui font froid dans le dos parce qu'on voit le avant, après. Le avant, c'est généralement le jour de l'entrée ou quelques semaines avant. Et on voit que les personnes sont âgées, ça reste un EHPAD, mais quand même dynamiques, si je puis dire. Et le après, c'est ce regard vide qui vraiment fait mal aux tripes. Et il y a aussi des photos même moi j'en perds mes mots, c'est-à-dire que vous voyez par exemple une plaie où vous voyez le tendon vif. Et c'est des photos qui sont très très choquantes. L'amaigrissement est très choquant aussi. On voit des femmes qui font, alors certes elles font pas 1m80, mais quand même moins de 30 kilos, ce qui est maigrissime. Et c'est très poignant.
Quand les familles ont pu se plaindre à la direction de ces établissements, on leur disait, si vous n'êtes pas content, finalement vous partez, quoi.
On leur disait allez ça, ailleurs. Ou on leur disait, circuler, il n'y a rien à voir, on n'a pas le temps, ou on ne répond pas. Le mépris des familles, il est considérable. Même moi, j'ai déjà échangé avec Orpea, il y a maintenant plus d'un an ou deux. Ils me disaient, si vous n'êtes pas contente, vous faites un recommandé, et puis ça sera comme ça. C'est un mépris, ou quand vous demandez un rendez-vous, alors ça, je reconnais que depuis 2 semaines, 3 semaines, ça va un peu mieux. Mais sinon, vous ne le donnez pas forcément.
Maître, il y a également des employés qui vous contactent et ils vous disent quoi ?
Ils me disent, alors il y a plusieurs sortes d'employés. Vous avez des employés qui me disent ce qui est écrit dans le livre, ce que les familles disent, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire autrement que d'être maltraitant. Et c'est pour ça que je ne les ai jamais nommés nominativement dans mes plaintes. Pourquoi ils ne peuvent pas faire autrement? Quand vous êtes seul pour gérer 20 personnes, vous êtes maltraitant malgré vous. Alors la question suivante, c'est mais pourquoi ces personnes ne partent pas? Il se trouve que ce sont souvent des femmes seules qui élèvent leurs enfants toutes seules, sans pension alimentaire. Quand vous avez un SMIC avec un travail précaire, eh bien vous le gardez. On ne peut pas leur jeter la pierre.
Pourquoi personne n'a réagi? Enfin, ça, on l'entend depuis des années. Il y a cette rumeur publique, on va dire. Pourquoi il n'y a pas d'organisme qui réagit? Je pense aux agences régionales de santé, par exemple, dont c'est le boulot.
Mais c'est leur travail qui n'est pas fait. Ça veut dire qu'elles ont un travail qui est quand même simple, si je puis dire. Elles doivent contrôler. Et le contrôle se transforme en visite de courtoisie. Ça veut dire qu'au lieu de contrôler de façon inopinée, eh bien, on prévient 6 mois avant que dans 8 ans, on va venir. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc l'ARS, les agences régionales de santé n'ont pas fait leur travail et c'est incontestable. Et les employés me le disent. Quand il y a contrôle, on est prévenu et tout est parfait. On met même, par exemple, un atelier luminothérapie pour que ce soit très joli.
Sarah Selman, l'avocate des victimes de la maison de retraite Orpea. Vous êtes toute jeune avocate. Pourquoi s'attaquer à ce sujet compliqué, délicat? Qu'est-ce qui, dans votre histoire, vous pousse à cela?
Bon, après, c'est personnel et je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais c'est une situation qui me touche très personnellement. Et la vulnérabilité des gens, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est scandaleux de s'attaquer à des personnes sans défense. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Et je pense
mais face
faut...
à Orpea, par exemple, quand on a une trentaine d'années, est-ce qu'on fait, pardonnez-moi...
Mais la valeur n'atteint pas le nombre des années.
Bien évidemment. Mais est-ce que face à une machine aussi forte que celle-ci, vous allez pouvoir faire quelque chose et bouger?
Oui, parce que j'ai la détermination. Et quand on est jeune, on a peut-être plus cette détermination que quand on a 40 ans de barreau.
Bien sûr. Vous avez donc déposé des plaintes au parquet de Nanterre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Eh bien, je ne sais pas. Moi, j'espère que des enquêtes seront ouvertes. Je l'espère de tout cœur, sachant que les plaintes que j'ai déposées, ce sont uniquement des plaintes avec des éléments probatoires certains. Je n'ai déposé aucune plainte sans preuve.
Vous avez de la pression, vous avez des coups de fil, vous avez des menaces éventuellement?
J'ai eu effectivement plusieurs courriers anonymes, pas très agréables, oui.
Vraiment?
Oui, mais après, je ne peux pas accuser Orpea
ouais, bien sûr.
D'en être à
l'objet. Mais on vous dit quoi?
Qu'il vaudrait mieux que j'arrête. Voilà, sinon ça va être compliqué pour vous. C'est des menaces en demi-teinte. Après, je n'accuse pas du tout Orpea d'être à l'origine de ces courriers, bien évidemment.
Vous aimez les dossiers compliqués? Vous avez été aussi l'avocate des victimes de Tesla?
D'une personne qui est mise en examen dans le cadre de ce dossier, oui. Je n'aime pas la facilité.
Vous êtes un peu le pot de terre contre le pot de fer?
Exactement.
Ça vous plaît de combattre En tout cas, il y a derrière un engagement fort.
Il y a un engagement fort parce que je considère que c'est, à chaque fois, ce sont des grands groupes qui se croient au-dessus des lois. Et moi, je suis là pour rétablir, ou du moins pour essayer de rétablir un petit peu les choses, oui.
Et vous êtes déterminé, on l'entend ce matin.
Oui, complètement, très déterminé.
Elle lance une action collective contre Orpea. Maître Sarah Salman, ce matin sur Europe 1. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Allez, dans un instant, on se détend un peu avec Mathieu Alterman. Mais avant, à 7h20, l'Info Express, Léna Iqmonier.
C'est le jour J pour le premier tour de l'élection présidentielle. Vous avez le choix entre 12 candidats, mais la grande inconnue, c'est la participation estimée à 28 à 30%. Les bureaux de vote ouvrent à 8h et vous avez jusqu'à 19h pour glisser votre bulletin dans l'urne et même 20h dans certaines grandes villes. C'est seulement à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on connaîtra les premières estimations des résultats. Le courant est progressivement rétabli après le passage de la tempête Diego et le retour à la normale est prévu dans la journée pour quelques 6000 foyers toujours privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne. 46e jour de guerre en Ukraine, Boris Johnson a effectué une visite surprise hier à Kiev, au cours de laquelle il a déambulé dans les rues de la capitale aux côtés de Volodymyr Zelensky. Le Premier ministre britannique a apporté une aide militaire aux Ukrainiens. Il offre des véhicules blindés et des missiles anti-navires. La Ligue 1, 31e journée et Paris qui pulvérise Clermont 6 buts à 1 avec deux triplés de Neymar et de Mbappé. Et puis la Formule 1, Charles Leclerc en tête sur Ferrari du Grand Prix d'Australie devant le champion du monde en titre, Max Verstappen. On dispute une dizaine de tours à présent.
Merci Léna.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Il est à la fois lui-même unique et authentique. Bonjour Mathieu Alterman.
Bonjour Thierry.
Alors, aujourd'hui Mathieu, vous allez à nouveau nous parler de plagiat musicaux. Vous semblez aimer ça, c'est pas la première fois.
J'adore en effet dénoncer les vilains copieurs qui abusent bien souvent de la naïveté du public, car ce ne sont que très rarement des coïncidences. Alors, vous connaissez le principe, hein, je diffuse un morceau, puis j'enchaîne avec l'original copié. Top départ. Allez. Souvenez-vous de Mickey 3D en 2003 avec Respire.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien.
Eh bien, c'est un décalque de Cette fille s'appelle demain de Julien Baer, sorti en 1997.
Tu t'appelles aujourd'hui, tu vis avec moi. Depuis quelques années, tu t'endors dans mes bras.
Ah oui, c'est fou là quand même.
C'est étonnant, hein ? Étonnant, on continue, j'ai du lourd. Nous sommes en 1977 et deux chansons à succès partagent la même mélodie alors qu'elles sont dans deux genres radicalement différents. Yves Duteil avec Prendre un enfant.
Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain.
Eh bien, écoutez, c'est un cousin germain de La Chenille par la bande à Basile.
Non. Pose les deux pieds en canard. C'est la chenille qui se prépare.
C'est vrai. Ok, no comment, mais... C'est fou, c'est vrai que ça saute aux oreilles. Il y a des cas qui relèvent du hasard quand même parfois.
Ah oui, c'est d'autant plus fascinant justement. Prenons par exemple Carlos Santana avec Europa.
Ouais. Oh, c'était bien ça.
Oui, c'est très bien, sauf que c'est tout de même très proche des ballons rouges de Serge Lama.
Je n'ai pas eu de ballon rouge. Quand j'étais gosse dans mon quartier.
C'est vrai.
Bon, pur hasard, hein, le guitariste américain n'ayant certainement jamais entendu la chanson française. Mais il y a aussi les petits malins, ceux qui s'autocopient. Tel Jean-Jacques Goldman, composant Les derniers seront les premiers pour Céline Dion en 1995.
Mes derniers seront les premiers dans notre réalité.
Avant d'écrire Aïcha pour Raled un an plus tard sur la même musique.
Comme si. Je n'existais pas. Elle est passée à côté.
Ça, c'est la patte Goldman, c'est ça?
Alors, l'autopompage.
Mathieu, en effet, c'est vraiment tendre le bâton pour se faire battre, même si les deux chansons sont tout de même excellentes.
Oui, et c'est là que je vous dévoile le plagiat le plus futé, hein, celui qui ne copie pas une, mais deux chansons. Ah. Vous prenez un morceau de Bobby Womack, écoutez bien le motif instrumental derrière la voix.
Ah oui.
Puis vous ajoutez une chanson brésilienne de Jorge et Ben. Eh bien, ça donne Die I Think I'm Sexy de Rod Stewart. Bon dimanche.
Yeah,
Merci Mathieu, bon dimanche à vous. Allez, 7h25 dans 5 minutes, le journal de 7h30. D'ici là, Isia sur Europe 1. Bon réveil, on est avec vous.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et vous participez bien sûr à cette matinale sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. Vous êtes de plus en plus nombreux. Grand merci à vous. Il est 7h30 sur Europe 1 et le journal vous est présenté par Clément Gouisse. Bonjour Clément.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Qui sera qualifié pour le second tour de la présidentielle? C'est aujourd'hui que les 49 millions de Français doivent départager les 12 candidats en lice. Ouverture des bureaux de vote dans une demi-heure.
Les agriculteurs ont-ils évité le pire après l'épisode de gel de la semaine dernière? Lionel Gougelot est allé à leur rencontre dans le nord de la France. Reportage dans ce journal.
Et puis on parlera du match OM-Montpellier. Les Marseillais vont tenter de poursuivre leur bonne série d'invincibilité.
Au sommaire de la prochaine demi-heure à 7h40, la une du JDD est consacrée bien sûr à la présidentielle et à son abstention à 8h moins le quart. Ça vous concerne, il sera question également de l'abstention et des nouveaux impôts en 2022. Mais avant cela, la tendance météo avec vous Valérie Darmon.
Eh bien le vent qui faiblit en Méditerranée, le temps qui se renforce en Occitanie, tout cela sous un plein soleil. En attendant, les chaussées sont glissantes en Lorraine et le ciel est voilé dans le nord-est et le sud-ouest.
Météo grand format dans 7 minutes. C'est l'heure du choix pour 49 millions d'électeurs français. Ils doivent élire leur nouveau président pour les 5 prochaines années.
12 candidats sont en lice pour ce premier tour. Justement, Océane Théard, vous êtes dans un bureau de vote de Montreuil. Et à une demi-heure de l'ouverture, tout est-il prêt pour accueillir les premiers électeurs?
Alors presque, hein, Clément, là on est dans les tout derniers préparatifs dans ce bureau de vote installé dans la mairie de Montreuil. Les 4 isoloirs et l'urne sont prêts, mais pas une minute à perdre. Il faut déballer les cartons de bulletins de vote, les disposer sur les tables, faire le point sur les procurations reçues et bien sûr faire chauffer quelques litres de café pour affronter cette longue journée. Et à tout cela s'ajoute le protocole sanitaire, précise Lydie, secrétaire de mairie responsable du bureau de vote.
Alors on a du gel hydroalcoolique, on a des masques pour les gens qui ont envie d'en mettre et qui n'en auraient pas, aussi bien pour les employés qui vont venir que les assesseurs et les votants. On n'a plus qu'à mettre en place surtout et attendre les électeurs.
Voilà, attendre donc les 978 électeurs inscrits dans ce bureau de vote. Les plus matinaux devraient arriver dans une petite demi-heure. Maintenant, ils auront jusqu'à 19h pour voter.
Merci Océane Théard, en direct de Montreuil.
Et on retrouvera Océane dans le journal de 9h. Le vote, lui, a débuté également à l'étranger et en Outre-mer.
Hein. Justement, en Outre-mer, le dépouillement a déjà eu lieu et les préfectures attendent 20h ce soir. Heure de Paris pour communiquer les résultats. Objectif, ne pas fausser la donne. Florin Aussu, notre correspondant sur place, est allé hier à la rencontre des électeurs martiniquais.
Avoir le droit de voter, déjà, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas le cas, donc on a cette chance, donc j'en profite pour le faire.
Joseph a été le premier votant du bureau 9 de la commune de Ducos, dans le centre de l'île. Comme une vingtaine d'autres électeurs, il a choisi de venir avant même l'heure d'ouverture officielle. Un acte citoyen indispensable aussi pour Christiane, même si cette campagne 2022 aura été un peu plus compliquée que d'habitude.
Pratiquement absente, parce qu'effectivement ça a commencé très tard, et on n'a pas eu grand-chose au niveau de ma boîte aux lettres, j'ai reçu les papiers il y a 3 jours.
À la sortie de l'isoloir, un autre Joseph tenait à adresser un message clair au candidat.
Faire aussi savoir aux politiques qu'il y a toute une population qui attend certaines choses d'eux. Certes, ils sont dans une place décisionnelle, mais il n'empêche que c'est quand même la population qui leur demande de les représenter.
Les électeurs martiniquais devront attendre jusqu'à 14h cet après-midi, heure locale. Il sera 20h à Paris pour connaître les résultats de ce premier tour.
À noter que le taux de participation s'est élevé hier à 17h à 35,1% en Martinique.
Et puis, certains Français qui résident à Shanghai ne peuvent pas voter. La plus grande ville de Chine est actuellement confinée. Élection à suivre, bien sûr, sur notre antenne dès 18h et puis de 19h à minuit, soir électoral européen. CNews avec Laurence Ferrari d'abord, puis avec Sonia Mabrouk. Direction à présent l'Ukraine où Boris Johnson a rencontré hier Volodymyr Zelensky.
Objectif, annoncer la mise en place de nouvelles aides financières et militaires. Le dirigeant ukrainien lui a fait part de sa gratitude tout en demandant à l'Europe et aux États-Unis plus de sanctions.
Les autres États démocratiques occidentaux doivent suivre l'exemple du Royaume-Uni. Aujourd'hui, vous voyez de vos propres yeux à quoi ressemble notre État et vous savez parfaitement à quoi ressemblent nos villes et nos villages à cause de l'invasion russe. Il est temps d'imposer un embargo total sur la croissance de l'énergie, d'augmenter l'approvisionnement de toutes les armes à l'Ukraine. Le peuple ukrainien apprécie le soutien du Royaume-Uni pour notre chemin vers la paix.
Des propos recueillis par Thibaut Hu.
Clément, retour en France à présent où la météo sera plus clémente ces prochains jours. Une tendance que nous confirmera à la fin de ce journal Valérie Darmon. C'est avant tout une bonne nouvelle pour les agriculteurs.
Ouais, ils pensent avoir évité le pire une semaine après l'épisode de gel, même si la situation est contrastée selon les secteurs avec des températures qui ont varié de moins 4 à moins 7 degrés. La région du Nord semble en tout cas avoir moins souffert que le centre ou le sud-ouest. Dans les vergers, les producteurs de fruits ont dû mettre en œuvre des systèmes de chauffage pour préserver la floraison. Tous n'ont pas eu les mêmes résultats. L'épisode de gel a quand même laissé des traces, Lionel Gougelot.
Xavier Collette parcourt avec soulagement les allées de son verger de la ferme du Paradis à Seclin. Malgré des nuits à moins 4 degrés, il a évité ici la catastrophe.
On a limité la casse, ouais. Ouais. Donc on s'est levé, on a mis nos alarmes pour se lever à la bonne heure. On a mis les bougies, on a mis l'aspersion.
L'aspersion, un arrosage préventif des fleurs de pommier qui protège du gel.
On arrose le verger quand on est encore en température positive. L'eau gèle sur la fleur et du coup, les calories dégagées par la glace vont protéger la fleur du gel extérieur. Et sur le verger qui a été en aspersion, on a zéro perte.
Plus au sud, dans la Vénois, les 30 hectares de vergers de Christophe Tellier ont subi des températures de moins 6 à moins 7 degrés et faute de matériel chauffant, tout n'a pas pu être protégé.
En pommes, suivant les variétés, on est entre 50-70% de dégâts et en poire, c'est quasiment 100%. Il n'y a rien qui a été sauvé, malheureusement, en poire.
Constat d'autant plus rageant que les dégâts se répètent d'année en année.
On a connu 2017 avec 100% de dégâts, 2019 entre 60-70%, 2021 entre 60-70% suivant les variétés et cette année, ça recommence sur une nuit à moins 6 degrés. Heureusement qu'on a chauffé avec les 4 machine pour sauver une partie de la récolte, mais il nous reste encore 10 hectares de ratatiner.
Des producteurs qui croisent les doigts pour que les saines glaces du mois de mai ne viennent pas aggraver la situation.
6000 foyers toujours privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes après le passage hier de la tempête Diego.
Allez, on passe au sport avec le football. L'OM reçoit Montpellier à 21h.
Objectif pour les Olympiens, reprendre la deuxième place à Rennes et pour Matteo Guendouzi, ce match s'annonce ouvert.
Bien sûr, on s'attend à un match ouvert parce que c'est pas une équipe qui reste à 11 derrière, qui défend et qui attend des contre-attaques. C'est une équipe qui joue, qui a de très bons joueurs de ballon, voilà, à l'image de Savanier. Donc ils ont vraiment une très bonne équipe avec de très bons joueurs et ce que nous on aime bien aussi, voilà, c'est de jouer contre des équipes qui jouent, qui veulent venir pour essayer de gagner le match et ce qui va faire un match ouvert et nous on va pouvoir, voilà, je pense, imposer aussi notre style de jeu ce week-end, mais ça va être un match très compliqué parce qu'ils ont, comme je disais, de très bons joueurs et c'est une équipe qui fait quand même une bonne saison dans l'ensemble.
Coup d'envoi donc de cette rencontre à 21h et puis hier, large victoire du PSG 6-1 face à Clermont et un peu plus tôt, Rennes s'est imposé 3-2 face à Reims.
Et c'était le journal de Clément Gouise. Merci beaucoup Clément, à tout à l'heure. Alors, le temps de notre dimanche, Valérie Darmon, beau et doux cet après-midi.
Et oui, grâce à un bel anticyclone qui favorise le retour d'un temps calme et sec sur l'ensemble de la France et qui vous permet de profiter de très belles plages ensoleillées, malgré un léger voile de nuages élevés inoffensifs, un petit peu plus épais si vous êtes dans l'ouest. Ce matin, le rayonnement nocturne ayant été fort cette nuit, il fait froid et il gèle. Les routes sont glissantes entre Lorraine et Champagne et il fera ce matin entre moins 4 à Beauvais et 6 degrés à Marseille. Et puis avec le soleil, les températures vont remonter. Vous profiterez d'un petit air printanier. Les températures qui s'orientent à la hausse. Il fera 10 à 15 cet après-midi du centre au nord de la France, 13 à 18 au sud, totalement dans les normales de saison et jusqu'à 25 au Pays Basque.
Oh, ça fait rêver. Valérie, vous restez avec nous. On se retrouve bien sûr dans quelques minutes avec Roland Pérez. Votre dossier ce matin.
Eh bien, on parle de l'historique de l'abstention en France.
À tout de suite. Mais d'abord la une du JDD avec son directeur de la rédaction. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Thierry.
Alors ce matin, la une du JDD, on retrouve évidemment les 12 candidats à la présidentielle.
Et oui, sujet incontournable avec ce titre, les vertiges d'un vote, une référence à l'abstention annoncée et à l'indécision de nombreux électeurs qui promettent un scrutin sous tension. Alors le JDD consacre une dizaine de pages à cette présidentielle, avec notamment les témoignages de 10 candidats sur leur premier souvenir d'élection. Nous nous projetons aussi évidemment sur les questions qui se poseront dès ce soir. le duel pour l'Élysée et la recomposition politique façon Big Bang. Mais je ne peux pas vous en dire plus, cher Thierry, au regard des règles qui s'imposent dans l'audiovisuel jusqu'à ce soir 20h.
Exactement, attention. Hein. Autre sujet d'importance, l'Ukraine. Le JDD a pu entrer en contact pour la première fois avec une rescapée des déportations, on va dire, organisées à Mariupol par l'armée russe.
Oui, c'est un témoignage rare, exceptionnel et bouleversant que notre journaliste Garance Lequen a recueilli, recoupé par des ONG qui travaillent sur ce dossier. Il illustre la volonté du Kremlin de miner la résistance des civils ukrainiens. Pendant 3 jours, cette jeune femme, qui parle au JDD, fut conduite de force de son village près de Mariupol à Rostov-sur-le-Don, de l'autre côté de la frontière. Alors, elle préfère rester anonyme, éviter les détails comme son âge, son métier, des noms de lieux qui permettraient d'identifier. On estime le nombre de déportés à 40 000 au moins, certainement 50 000, explique au JDD Pavlo Kirilenko, le gouverneur de la région de Donetsk, sous contrôle ukrainien. Alors, ces chiffres, hein, les ONG sur place tentent de les vérifier.
Mais Cyril, que vous raconte cette rescapée alors ?
Après avoir été forcée de quitter son abri, elle a été transportée en camion militaire russe dans une école en construction où elle a dû signer un registre face à des policiers. Elle dit au JDD « on se sentait déshumanisé ». À leur merci, comme si on était des esclaves. Après une nuit sans sommeil, inquiets, frigorifiés, ils ont dû monter dans des bus. Le chauffeur roule, change d'itinéraire à cause de routes défoncées, tente d'ouvrir des passages. Et après 5 heures, le convoi est arrivé à Bezimen, un village côtier. La jeune femme est ensuite emmenée à la gare de Tangarok, d'où des Ukrainiens sont déplacés vers des villes plus éloignées. C'est là qu'elle réussira à y échapper, à rejoindre un pays balte et à pouvoir témoigner de ses 3 jours en enfer.
À lire donc ce matin dans les colonnes du JDD. Merci à vous, Cyril Petit, directeur de la rédaction. Dans la presse également ce matin, Voton en une du Parisien aujourd'hui en France. Notez aussi page 12, ce gros plan sur cette jeunesse russe qui soutient Poutine. Reportage assez passionnant. Aux urnes citoyens, titre Ouest France dimanche, l'heure du choix pour la Provence. Et puis en une de l'équipe, la balade des As avec cette photo de Neymar dans les bras d'Mbappé. Ils ont écrasé Clermont hier soir 6-1 avec un triplé des deux stars parisiennes. Dans un instant, Valérie Darmon, Roland Pérez, on va parler ce matin d'abstention. Mais pourquoi on boude le vote ? C'est votre matinale week-end et on parle de vous. À tout de suite sur Europe 1.
Réveillez-vous, informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne votre rendez-vous pratique du dimanche matin dans votre matinale week-end avec Valérie Darmon et Maître Pérez. Heureux de vous retrouver.
Bonjour nous à aussi. Tous.
Alors, les bureaux de vote vont ouvrir dans un petit quart d'heure maintenant. Premier tour de la présidentielle, bien sûr. On ne doit pas parler des sondages, de la campagne, d'aucun candidat. Il n'y a qu'un chiffre qu'on vous donnera, notamment à midi. C'est celui de la participation. Et l'un des enjeux de cette élection, c'est bien sûr le taux d'abstention. Et ce n'est pas vraiment nouveau. C'est votre dossier ce matin, Valérie.
Effectivement, hein, on parle d'une possible abstention autour de 30%. Plus de 7 points au-dessus du taux de 2017, au-delà du dernier record de la présidentielle de 2002, où 28,4% des électeurs s'étaient abstenus au premier tour. Et si ces 32% se confirment, ils constitueraient un record au premier tour d'une élection présidentielle sous la Ve République et confirmeraient surtout la hausse constante de ce chiffre lors des dernières élections municipales, régionales et européennes.
Archives Europe 1.
Selon les derniers chiffres de la participation tombée il y a une heure, l'abstention s'annonce encore une fois record.
Franchement, on voit tous les ans la même chose. Moi, je m'en fous, je vote plus.
C'est la première fois de ma vie que j'en ai marre de voter contre-cœur. Je vais regarder la soirée électorale sans avoir été voté, et sans désintérêt.
Une élection qui n'a pas mobilisé les Français malgré les appels de la classe politique. L'abstention est estimée ce soir à 66%. C'est à peine moins que dimanche dernier.
Voilà, ouais.
Eh oui, 58,4% d'abstention au second tour des municipales de 2020, 51,9% au premier tour des législatives de 2017, 65,31% au second tour des régionales 2021.
Mais Valérie, normalement, l'élection présidentielle, c'est vraiment l'élection majeure, elle attire plus que les autres, non ?
Effectivement, jusqu'à maintenant, en tout cas, elle faisait exception. Ouais. Et pourtant, même si l'abstention est née en même temps que le droit de vote depuis la fin des années 80, son taux n'arrête pas de croître. Alors avec nous ce matin, pour nous éclairer sur ce phénomène, Anne Muxel, directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques au CNRS, au CVPOF et donc Sciences Po, on a l'impression, Anne, que de plus en plus, la politique ne fait plus le quotidien des Français.
La politique intéresse les Français, malgré tout. Simplement, ils la regardent d'une façon plus distanciée, plus critique. Et l'abstention, la tentation de l'abstention, c'est aussi le fait de ne pas se sentir représenté, dans l'offre électorale qui est proposée. Donc c'est aussi l'expression plutôt d'un mécontentement, d'un découragement face à ce qui est considéré comme l'impuissance des politiques. Mais il n'y a pas de franc désintérêt pour la politique.
Restez avec nous, madame. Valérie, les jeunes restent les plus durs à mobiliser, hein.
Oui, effectivement. Près de 9 sur 10 ont boudé les urnes lors du premier tour des régionales et départementales, comme nous le confirme d'ailleurs Jonathan Bocquet, président de l'association ANASEJ, une association nationale des conseils d'enfants et de jeunes qui existe depuis 30 ans, qui est transpartisane. Et M. Bocquet étudie depuis une dizaine d'années, aux côtés de l'IFOP, le comportement des jeunes face aux urnes. Et ils sont une majorité à considérer que c'est un devoir pourtant de voter, et ils ne le font pas. Ils dénoncent notamment un manque d'information, mais pas seulement.
C'est aussi l'impression que la politique ne change rien, ni à la société, ni à leur situation personnelle. Un sentiment, en fait, d'impuissance du politique ou de vanité du politique. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté de la démonstration, de la force de démonstration de la politique. Ils réclament la prise en compte du vote blanc, mais plus largement, en fait, une campagne de meilleure qualité et des modalités qui faciliteraient leur vote, notamment pour ceux qui déménagent beaucoup ou qui ne sont pas proches de leur bureau de vote.
Anne Muxel est avec nous. Ne pas voter, finalement, c'est presque devenu un acte politique. Ce n'est pas que du genre je m'en foutisme, on va dire. Hein.
Oui, alors il y a cette idée que l'abstention est de plus en plus un moyen aussi de s'exprimer, de faire entendre son mécontentement. Ouais. Et donc, il y a une dimension protestataire dans la dynamique de l'abstention à laquelle on a pu assister ces dernières années, c'est-à-dire faire entendre un message de mécontentement.
Merci à vous, Anne Muxel, directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques au CNRS et au CVPOF. Grand merci, Valérie.
Alors moi j'ai une question pour Roland. Il y a ceux qui ne se déplacent pas aux urnes, comme ces jeunes, on vient de l'entendre, ceux qui y vont mais qui votent blanc ou nul. Alors Roland, est-ce qu'on va finir par compter ces votes blancs ou ces votes nuls? Le gouvernement vient de créer la surprise avec une circulaire sur ce sujet. Mais déjà, c'est quoi la différence?
Alors en fait, pour le vote blanc et le vote nul, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que les personnes et les électeurs se présentent dans l'urne, et en réalité, dans le premier cas, ils vont simplement rien mettre dans l'enveloppe ou mettre une feuille blanche. Dans le deuxième cas, ils vont émarger, ils vont mettre un message, un dessin, une contestation. Mais dans les deux cas, ça ne va pas être pris en compte, mais ils sont décomptés, c'est-à-dire qu'il y a dans le procès verbal du vote, on va décompter les votes nuls et les votes blancs, et puis l'abstention, évidemment, on ne se présente pas aux urnes du tout, rien n'est décompté.
Roland, il y aura un jour un parti du vote blanc, il y a eu des tentatives d'ailleurs, c'est faisable juridiquement, on va dire?
Oui, c'est parfaitement faisable. Il en est fortement question aujourd'hui, puisque le vote blanc, c'est l'expression d'une volonté de ne pas adhérer à ce qui a été présenté. C'est une sorte de contestation.
Merci beaucoup, Roland. Merci, Valérie. Ce taux d'abstention, on va en parler, bien sûr, ce soir. Votre soirée électorale, dès 18h, sur Europe 1, avec Pierre de Villeneuve. Dès 19h, grande soirée électorale, Europe 1, CNews, avec Laurence Ferrari, puis Sonia Mabrouk. Toutes nos rédactions sont mobilisées. Restez avec nous. Déclaration d'impôts et empoisonnement alimentaire. J'ai plein de questions pour vous, Roland.
Je suis là.
À tout de suite.
Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
Et 8h moins 10, l'Info Express, Clément Guizin.
49 millions d'électeurs français appelés aux urnes. Aujourd'hui, ils doivent élire leur nouveau président pour les 5 prochaines années. Le vote, lui, a déjà débuté hier à l'étranger, en Outre-mer. Certains experts craignent une abstention record entre 28 et 30%. Résultat de ce premier tour à 20h. On a appris hier la disparition de l'ancien ministre socialiste Michel Delebarre. L'ancien député maire de Dunkerque s'est éteint à l'âge de 75 ans à Lille. Visite surprise de Boris Johnson à Kiev. Le premier ministre britannique a rencontré le chef de l'État Volodymyr Zelensky. Il promet des véhicules blindés et des missiles anti-navires. C'est le premier leader du G7 à se rendre en Ukraine depuis le début de l'invasion russe fin février. Quel soutien va apporter l'UE aux enquêtes sur les possibles crimes de guerre en Ukraine? Cette question sera étudiée aujourd'hui et demain par l'Union européenne et le procureur de la Cour pénale internationale. A noter qu'après le massacre de Boutcha, les services secrets allemands ont dévoilé des écoutes de soldats russes et elles confirmeraient que les meurtres de civils et de prisonniers militaires font partie d'une stratégie délibérée de l'armée russe. Et puis large victoire du PSG hier, 6 buts à 1 face à Clermont. Un peu plus tôt, Rennes s'est imposé 3 buts à 2 face à Reims.
Merci Clément, à tout à l'heure.
Réveillez-vous, informez-vous avec Thierry Dagiral sur Europe 1.
Ça vous concerne, deuxième partie après le dossier de Valérie sur l'abstention. Voici pour vous, Maître Roland Pérez, les questions. Alors, première question. Depuis jeudi, les déclarations d'impôts sont en ligne. Accès suspendu ce week-end parce qu'on le sait, il y a eu un bug, mais tout devrait refonctionner dès le début de la semaine. Les Français vont avoir entre 1 et 2 mois pour vérifier, modifier, envoyer leur déclaration de revenus pour 2021. Plusieurs questions se posent. Roland, a-t-on vraiment besoin de faire ces déclarations alors que nos impôts sont prélevés à la source depuis 2 ans maintenant? Et surtout, que faut-il savoir pour 2022 en termes de crédit d'impôt et d'avantages qu'il ne faut pas oublier de mentionner pour en bénéficier et donc réduire la facture?
Alors, la nouvelle, c'est qu'il faut toujours déclarer ses impôts, même d'ailleurs si on ne doit aucun impôt, même si on sait qu'on ne va pas être imposé, il faut déclarer ses impôts. Absolument, il faut déclarer ses revenus, en fait. Deuxième chose, la déclaration de revenus est en ligne et c'est même la règle aujourd'hui. Elle est totalement automatisée pour la plupart, car le fisc a déjà pré-rempli les informations connues sur le nombre d'enfants, de parts, le salaire annuel, les personnes à charge, etc. Et même si ces informations ont été portées à la connaissance du fisc durant l'année 2020, parce qu'il y a eu des changements, des divorces, par exemple, des mariages, ces informations sont déjà connues et font partie de la déclaration pré-remplie.
Donc la déclaration papier, c'est complètement terminé?
Alors non, pas tout à fait quand même, parce que ceux qui n'ont pas internet ou qui ne savent pas s'en servir pourront continuer à remplir manuellement leur déclaration et à l'envoyer au centre des impôts. La date limite, c'est le 19 mai 2022. Et pour les autres, je donne les exemples. Pour le département de 1 à 19, ça va être le 24 mai. Le 31 mai pour les départements de 20 à 54. Et pour vous, Thierry et Valérie, le 8 juin pour les départements de 55 à 976.
Alors là, tendez bien l'oreille. Roland, venons-en aux déductions possibles encore cette année. Et surtout, les nouvelles déductions, notamment celles qui ont été mises en place en raison du Covid.
Alors, il y a des traditionnelles déductions qui sont liées évidemment à celles qu'on connaît, aux pensions alimentaires versées par les parents séparés, les frais de garde d'enfants à concurrence sont de 7,50% des sommes payées, il y a des limites, c'est 2 300 € par enfant et par an. Les emplois salariés à domicile, alors ça peut être pour le jardinage pour vous Valérie, le bricolage pour vous Thierry, le ménage pour moi parce que j'aime pas du tout ça. Là aussi, le crédit d'impôt se fait à 50% dans la limite de 12 000 € par an. Il y a les dons aux associations et aux partis politiques puisqu'on en parle aujourd'hui. Les frais liés à la dépendance dans une proportion de 25% des dépenses et dans la limite de 10 000 € par an. Et puis, il y a aussi l'accueil d'une personne âgée chez soi.
Et les nouveautés donc en matière de déduction?
Alors, pour pallier justement l'augmentation des carburants, nouveauté, le barème de l'indemnité kilométrique pour ceux qui travaillent avec leur véhicule est relevé de 10%, ce qui va permettre de plus grandes déductions de frais professionnels réels. Ouais. Cela concerne quand même 2,5 millions de foyers. Des crédits d'impôt également pour un premier abonnement à la presse pour 30% des sommes engagées et également pour l'installation d'une borne de recharge de voiture électrique. Enfin, grande nouveauté, les frais liés au télétravail sont également déductibles du revenu imposable dans la limite de 2,50 euros par jour de télétravail et dans la limite de 550 euros. Mais c'est déjà ça.
Allez, deuxième question du jour, Roland, qui est aussi bien sûr au cœur de l'actualité, celle liée aux enquêtes en cours sur l'empoisonnement de consommateurs après avoir mangé des pizzas, du chocolat ou encore des fromages. Comment agir si on a été victime d'une telle intoxication particulièrement grave pour certains, voire même, on le sait hélas, mortelle?
Alors, l'intoxication alimentaire est provoquée par l'ingestion d'une bactérie ou d'un parasite présent dans la nourriture. Alors, les symptômes, on les connaît hélas, sont des vomissements, des nausées, des diarrhées, des douleurs abdominales. Et le code de la consommation est clair, les produits doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Alors, tous les professionnels dans la chaîne de fabrication des aliments doivent respecter les réglementations d'hygiène et de sécurité, évidemment, pour éviter les risques de contamination alimentaire. Alors, on signale les produits défectueux à la direction de la protection de la population. On peut faire une plainte ou une action civile en réparation qui peut être engagée à condition de prouver que l'intoxication est en lien direct avec l'ingestion du produit. Et pour cela, il y a le diagnostic médical, il y a les analyses de la nourriture et puis il peut y avoir aussi une expertise scientifique.
Et je crois aussi qu'il y a des associations qui peuvent être d'une grande aide pour les victimes.
Oui, il y a le NACEL notamment de Quentin Guimin qui avait créé cette association en 2017, président de l'association pour la santé des enfants qui justement fustige le manque criant de contrôle sanitaire. Une adresse mail a été créée pour ces dernières contaminations. C'est victimesanitaires@gmail.com. victimesanitaires@gmail.com.
Merci beaucoup Roland. Vos questions à tout moment sur notre page Facebook Europe Matin Weekend. Merci à vous deux. Alors j'ai cherché un disque pour terminer. C'est pas la plus connue de James Brown. Mais ça fait bouger pour ce jour de vote. Un hymne à un président funky. Funky president. Dimanche.
Bon dimanche.
Gotta get over before we go under.
Dance sur l'album Reality. C'était James Brown 1974. À suivre, Isabelle Moreau et l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. À tout de suite.